Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, nous vous offrons un nouvel épisode spécial, puisque certains d'entre nous sont encore par-delà les océans pour prendre quelques vacances. Pour continuer sur la lancée de nostalgie initiée avec le précédent épisode, nous vous offrons cette fois-ci un épisode spécial invité, en l'honneur de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés depuis des années. On aurait voulu pouvoir mettre tout le monde, mais promis, ce n'est que partie remise. Bonne écoute, et à dans 2 semaines pour la rentrée de Pardon Maman.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça?
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
Vulgaire? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
La Genèse en 7 jours.
Alors Dieu a imaginé Ève, mais Adam est perdu.
Oh, pour croire en Dieu, curé, faut croire aux hommes. Mais quand vous parlez de la charité des hommes, moi ça me fout le voile rouge, je préfère mes chiens.
Pour Dieu, pour Dieu.
Ok, c'est...
Il était surpris par le jingle.
Bah ouais, un petit peu. Parce qu'on avait fait du teasing dans la journée.
Ah.
Voilà.
C'était pas moi.
Non, c'était Odom. Donc, la Genèse en 7 jours, une réalité derrière le mythe. Alors, petit rappel, hein, la Genèse, moi, je vais du coup pas parler de tout le premier livre de l'Ancien Testament.
C'est un peu long.
Ouais, parce qu'on m'a dit qu'il faut faire plus court. Hein, c'est en effet le livre commun à l'islam, le judaïsme, le christianisme, mais c'est aussi le récit de la création du monde avec un grand M. Le monde créé par Dieu avec un grand D. En 6 jours plus un RTT.
Il y avait avec un grand Y.
Voilà. Sauf qu'on ne sait pas comment faut foutre les lettres et tout. Enfin, c'est compliqué. Alors, petit rappel pour ceux qui ont, comme moi, pas eu des cours là-dessus, un enseignement là-dessus. Le premier jour, c'est la célèbre phrase Fiat lux et fit lux.
Let there be light.
Que la lumière fut et la lumière soit. C'est la création de la lumière.
Attends, Fiat lux ut pit lux, c'est quelle langue?
Fiat lux et fit lux.
Ah, c'est
lux.
Du latin. D'accord. Okay.
Voilà, c'est du latin.
Là, c'est la tête du chum. C'est la tête du chum qui est
Fiat lux mit lux.
C'est du
pas
latin.
Pas problème, tu vois mieux.
Voyons.
C'est la création de la lumière. Le deuxième jour, c'est la division des eaux du ciel et de la terre. Le troisième jour, le regroupement des terres, des mers et l'apparition de la vie végétale. Le quatrième jour, l'organisation de l'espace et des astres. Et on m'a dit tout à l'heure que oui, ça posait problème peut-être d'avoir la lumière avant d'avoir des astres. On en reparlera.
Très bien.
Le jour 5, c'est l'apparition du règne animal. Le jour 6, la création de l'homme en tant qu'humain. Et le jour 7, c'est donc le fameux RTD, le repos sabbatique.
Et bien organisé.
Petite question. Est-ce que, comme dirait Louane, le jour 1, c'est celui qu'on retient?
Merci.
C'est juste une question que je pose là.
Je pense que c'est une réflexion éclairée.
Je suis même pas sûr qu'ils connaissent
la prochaine.
Je vois qui c'est Louane et voilà. Malgré mon manque de culture.
Revenons-en à la création du monde, si vous voulez.
Donc tout cela paraît sans doute impossible pour vous, pauvres mortels. Mais si il y a 2000 ans, vous étiez allé voir un peuple muni d'une mitraillette, d'un briquet et d'un appareil raclette,
il vous aurait foutu avec ça dans les mains.
Il vous aurait sans doute voué un culte à vous aussi.
Il est vrai.
La question posée dans du coup ce petit papier que je fais, c'est d'essayer donc d'élargir notre pensée pour essayer d'expliquer, si c'est possible, la création depuis la première aube de notre univers jusqu'à l'apparition de l'homme, et tout ça en 7 jours.
Voilà. Pragmatique donc.
Voilà.
Vraiment, est-ce qu'on peut créer le monde en 7 jours?
Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que physiquement ça serait viable?
Très bien.
Et alors pour ça, d'abord, faut se mettre d'accord sur c'est quoi un jour.
24 heures. Ah non, c'est le tour du soleil, et vu qu'il n'y a pas de soleil.
C'est le tour du soleil.
Ah,
alors,
déjà, c'est vrai, voilà, que c'est mal
barré. C'est mal barré. C'est mieux.
Bah, déjà, s'il n'y a pas d'astre, il n'y a pas de terre. S'il n'y a pas d'astre et de terre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour.
Balai. Oui, mais. Imaginons que tu veux le faire en 7 jours.
C'est une rotation?
Ouais, c'est la rotation.
C'est la terre qui tourne sur elle-même.
Déjà, tu vois, les choses bêtes, c'est la rotation de quelque chose avec autre chose. Et vu que tu
n'existes pas encore,
il n'y a pas deux choses, tu ne peux pas faire une rotation avec aucune chose.
C'est pour ça que tu as besoin de créer de la lumière d'abord pour pouvoir voir quelque chose. Parce que si tu n'as pas la lumière, tu ne vois rien.
D'accord.
Et si tu ne vois rien, tu ne peux rien faire.
Jusque-là, ouais. À part s'il nique tel.
Mais ce serait basiquement si je te disais construis-moi une petite tour Eiffel avec des cure-dents.
Et
tu as un clip-clip pour le faire. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un club-club, tu n'as pas de valeur de référence.
Eh bien, je te dirais, ça dépend de la vitesse à laquelle je vais. Voilà.
Ah.
Oui, mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'un club-club.
Oui, mais je me débrouille, hein. Je distors l'espace-temps.
De toute façon, c'est dû à qu'un grand D.
Je gagne. C'est dû ouais, à voilà. Grand D, donc, je suis omnipotent, je fais ce que je veux.
Ok. Ça, c'est pratique, ça. On s'essaye souvent dans la Bible.
Alors, du coup, la définition d'une journée, donc la définition solaire d'une journée, c'est le temps que met une planète pour tourner sur elle-même, pour que le même point soit éclairé deux fois de suite, avec un intervalle qu'on appelle la nuit. Alors, du coup, ouais, vous m'avez dit d'abord, c'est 24 heures. Alors, presque. C'est presque 24 heures, c'est 23 heures, 56 minutes et 4,09 secondes, pour être précis. Mais alors du coup, si c'est le temps que ça met... Oui, Camille.
Attends,
j'avale.
Pardon.
Pas de problème.
Une journée, ça fait pas 24 heures.
Pas vraiment, non.
Non, ça fait... Il vient de te dire 23 heures.
Mais oui, non, mais...
tu crois que tous les 4 ans, on rajoute une journée comme ça pour plaisir.
Ah, mais c'est à cause de ça.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Mais je ne savais pas.
C'est à ça que ça sert.
Aïe, 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 aïe.
On rajoute une journée parce que c'est
mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas les années bisextiles.
Non, d'ailleurs, en fait, c'est pas ça du tout. Parce que tu dis ça, mais c'est faux. Ah. C'est parce que c'est 360 jours un quart. C'est pour la révolution de la Terre. C'est le tour de la Terre autour du Soleil. Tu fais un quart de journée en plus, du coup, tous les 4 ans.
D'accord.
On rajoute un jour.
Ah oui.
Ah. Oh.
Ah.
Oui.
Oui, bonjour, ici votre voisin Philippe Digression.
Ouais, je sais.
J'appelais pour vous dire que je crois que vous digressez beaucoup.
On sait. On va essayer d'arrêter.
Désolé. Pardon, Philippe.
Au revoir, Philippe.
Pardon, vas-y, on t'a interrompu.
Voilà. Alors, du coup, si la définition d'une journée, bah, c'est le temps que ça met pour tourner, il faudrait voir, à votre avis, c'est quoi le temps d'une journée, mais sur Mars, pas sur la Terre.
Bah.
Ça dépend.
Attends.
Alors, en temps humain.
En temps terrien, ouais. En temps terrien.
Est-ce qu'elle tourne plus vite que la Terre?
Non, un poil plus loin.
Elle est plus proche ou plus loin du soleil?
Elle est plus loin, si on met dans l'ordre, c'est
la planète juste après, non? Je crois que c'est une histoire de
la Terre, Mars. En fait. C'est la quatrième planète.
Il y a 10 jours.
Oui, puis on est proche du soleil, puis on tourne vite, non?
Alors, pas forcément.
Non. Alors, 10 jours, pas ça?
Ah, c'est pas la taille aussi de la planète qui fait qu'elle tourne plus ou moins vite? 10
jours, c'est beaucoup moins. On est vachement plus proche de la Terre pour Mars, puisqu'on est à 24,61 heures. Donc, oui.
Plus une planète est grosse, plus elle met du temps à faire un tour complet, non?
Une révolution.
Sur elle-même, dit ça à Jupiter, dont la journée dure 9,83 heures. Donc elle tourne très
Jupiter.
Très vite, Jupiter. Okay. Et alors, petite dernière, Vénus.
42
heures.
Vénus, qui pourtant est donc la deuxième planète, elle met moins 116 jours terriens pour faire un tour sur elle-même.
Moins 116 jours ?
Le moins.
Alors le moins, il est prévu, c'est pas une erreur, c'est parce qu'elle tourne à l'envers. On en a deux qui tournent à l'envers.
Alors, à l'envers par rapport à nous, faut pas vexer les Vénusiens, c'est comme référence.
Ils font pas la gueule, de toute façon, il fait beaucoup trop chaud sur la planète. C'est pas ça leur plus gros problème. Donc, si la durée d'une journée, c'est une grandeur qui est relative, une grandeur qui dépend d'où on se trouve, à quelle vitesse on bouge et de la gravité environnante, là, on va pouvoir comprendre qu'on peut mettre une petite feinte à la durée des 7 jours. Du coup, lorsqu'on remonte au premier temps de la création, il y a à peu près 15 milliards d'années.
Tout à fait.
Enfin, on dit entre 10 et 20 milliards, donc 15, c'est pas mal.
Mais qu'est-ce que c'est ?
On est plutôt bon en maths. Environ, l'univers était très différent. Donc, et l'univers, on sait qu'il est en expansion. Cela sous-entend qu'au début, l'univers, il était très, 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 très dense. Et du coup, la définition d'une journée, elle était très, très différente. Mais elle était aussi évolutive, parce que s'il est en expansion, l'univers il va changer, et si l'univers il va changer, la durée d'une journée aussi. Alors, du coup, si on prend un premier jour de 8 milliards d'années terrestres, on a tout le temps entre le Big Bang et la création de la matière.
Ah bah oui, c'est grugé.
C'est un peu grugé, mais si on regarde les chiffres, ça marche pas mal. Après, tu as un second jour, il fait 4 milliards d'années et c'est la formation de notre galaxie, la Voie lactée, et donc du Soleil. Parce qu'on sait que notre Soleil, il y a à peu près 4 milliards d'années. Le troisième jour, il fait 2 milliards d'années. Ce serait la période à laquelle la Terre s'est refroidie et que donc l'eau, elle est apparue sous forme liquide pour la première fois et qu'il y a les premières algues qui sont apparues. Et là, on a le quatrième jour, le fameux jour où on sent que c'est une feinte parce qu'on nous dit que les astres, ils apparaissent après la lumière. En fait, Le quatrième jour, là, si on remonte le temps, donc on a eu un premier jour de 8 milliards d'années, plus 4 milliards, plus 2 milliards. Là, on est à l'époque où l'atmosphère terrestre, elle va devenir transparente.
Ah.
Et donc, le moment où l'atmosphère terrestre, elle est transparente, même si la lumière existait déjà, bah, tu vas avoir les astres qui vont être visibles depuis la Terre. Et donc, la photosynthèse qui va pouvoir commencer, donc la photosynthèse, c'est pouvoir créer du dioxygène par les plantes. Et c'est notre quatrième jour. Le quatrième jour, on va voir les astres. En fait, ils étaient déjà là, mais on ne pouvait pas les voir parce que l'atmosphère n'était pas là.
Ouais, mais c'était pas clair dans la Bible aussi.
Non, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de...
De place. Le bouquin était déjà gros.
De recul.
Voilà.
De craie.
Et les télescopes étaient flous, voilà, à l'époque. Non mais je sens que des gens ils vont faire ouais le télescope c'est Newton, ça n'a rien à voir.
Il est vrai que ça n'a rien à voir, nous en sommes
c'est
conscients.
Loin. Alors du coup le cinquième jour hein, il ferait 500 millions d'années, c'est l'époque où les animaux règnent sur la Terre.
C'est l'histoire de la vie.
Et ça nous amène jusqu'à il y a 250 millions d'années, époque à laquelle un gros cataclysme va avoir lieu, gros cataclysme qui provoque une extinction de masse des espèces
massive.
Une extinction massive du règne animal qui va laisser la place aux mammifères de régner, plus particulièrement à une espèce de dominé, l'homme. Et donc là, on a fait nos 6 jours et il nous reste le 7e pour se reposer. Ça peut à peu près
et
marcher.
Et profiter de la life.
Alors techniquement, on peut chercher à utiliser les chiffres pour justifier ou interpréter beaucoup de choses. Les théoriciens du complot en savent beaucoup.
En sont témoins.
Si l'explication peut laisser rêveur, ce n'est pas pour rien que je la tire de l'œuvre romanesque La Formule de Dieu de José Rodríguez dos Santos.
Sacré José.
Qui propose cette idée-là et c'est assez intéressant. Mais proposer une explication, ce n'est pas prouver scientifiquement. Même si ça colle bien, l'important, ce n'est pas de savoir si c'est vrai, mais si vous êtes prêt à y croire.
Et il a bien raison. Oh. Donc par contre, tu n'as pas répondu à la question que moi j'ai, c'est est-ce que Dieu a des mains pour créer l'univers du coup ?
Eh ben, tout dépend. Si tu dis qu'il nous a vraiment créé à notre image, a priori, il a des mains.
À son image.
Habile.
Mais peut-être qu'on avait des tentacules à la base et qu'on les a perdus, on ne sait pas. Enfin, bref,
c'est l'évolution, on demande à Darwin.
Dont la théorie de l'évolution a été contrée il y a quelque temps déjà. Allez.
Voilà.
Tu vas nous chanter quoi ?
Oh, 12 chansons que vous me chantez là, Armand.
Ah, j'ai adoré mon jingle.
C'est collaboratif.
Ouais, c'est mis à deux pour celui-là.
Alors, Marguerite Durand. Donc, Marguerite Durand, déjà, n'est pas Marguerite Duras.
Non, personne n'a cette référence, mais on vous l'expliquera peut-être plus tard.
Non, mais cela dit, très souvent, elle est confondue. Et bien souvent, j'ai dit que j'allais parler de Marguerite Durand. S'attendait à ce que je parle de Marguerite
de Duras. Il y a
donc,
beaucoup
non,
de lettres en commun
aussi.
Même.
Bon. C'est pas la même. Alors, pourquoi je voulais parler de Marguerite Durand ? Parce que, déjà, c'est une féministe de la première vague. Et c'est une vague féministe qu'on connaît très mal, qui est très souvent complètement ignorée. Dans les manuels d'histoire, déjà, on parle très peu de féminisme, mais on oublie tout le temps tout ce qui s'est passé avant 68. Je suis angoissée parce que Camille me regarde, j'ai peur de dire une connerie en histoire.
Non.
Elle est pas si méchante.
La menace.
Mais si jamais je dis une bêtise en histoire, vraiment, je t'en supplie, corrige-moi. En tout cas, la première vague féministe, donc toute petite introduction avant d'attaquer vraiment sur le vif du sujet qui est donc Marguerite Durand. Donc on la date en général à 1848. C'est un moment qui marche bien sur la planète entière parce qu'en France, bah, comme vous savez, 48, il y a une révolution, il y a des idées républicaines qui commencent dans la société à poindre. Il y a un début de réflexion féministe, même si c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Et aux États-Unis, il y a la convention de Seneca Falls, qui est connue pour être la première revendication du droit de vote par les femmes américaines. Alors, en France, il faut quand même rendre justice à Olympe de Gouges, qui, à l'époque de la prise de la Bastille, ne devait pas être loin de mettre dans le quartier.
Cette petite chouquette qui a mal fini,
mais qui, en 1791, a écrit cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était quand même quelque chose de très audacieux. Donc, elle a été guillotinée 2 ans plus tard par Robespierre, qui n'a pas trop kiffé l'idée. Mais elle était vraiment, vraiment pionnière à l'époque. Et ce qu'elle proposait, c'était quelque chose qui était complètement inenvisageable pour son époque. Avant elle, il y a eu Christine de Pizan, au XVIe siècle, qui était quand même aussi bien badass. Elle dénonçait la misogynie, elle a
presque inventé le mot. Voilà. Mais à part ces deux pionnières et puis quelques autres, évidemment, que l'histoire a dû aspirer dans ses oubliettes, il n'y avait pas grand-chose.
Il y en a sûrement beaucoup.
Voilà, il y en avait certainement...
De ce qu'on peut parler aujourd'hui, à mon avis, il y en a 200 qui sont passés aux oubliettes avant.
Mais en tout cas, des femmes qui avaient théorisé sur le plan politique, qui avaient vraiment écrit des textes et pensé ça comme un mouvement de lutte politique, parce que le féminisme, c'est ça, c'est une forme de... Moi, je revendique le côté révolutionnaire du féminisme. Hein, c'est quand même une volonté de retourner la société, de la rendre complètement différente. Moi, il y en a peu des femmes qui avaient vraiment théorisé ça et écrit noir sur blanc. Voilà, il faut que les choses changent. Il faut rééquilibrer les relations entre les hommes et les femmes sur le plan économique, politique, etc. Donc voilà. Alors, cette première vague féministe, déjà, on l'a appelée première vague que pendant la deuxième vague. Elle a été nommée ainsi à partir de 1968-70, à l'apparition du MLF, où d'un seul coup ces femmes se revendiquent comme la deuxième vague. Et certaines historiennes et certains historiens aussi disent que la première vague, c'est la vague de l'égalité, et que la seconde vague, c'est la vague de la différence. C'est-à-dire que cette première vague, elle a quand même un rôle extrêmement important, et on leur doit tellement à ces femmes. Elles nous ont permis... à nous, les femmes, d'obtenir... alors, le droit de vote, c'est très souvent avancé, mais il faut quand même rappeler qu'en France, on l'a obtenu quand ?
47 ?
La première fois qu'on a voté, c'était en 1947. Donc, on a quand même commencé à le demander en 1791 avec Olympe de Gouges.
L'idée a eu le temps de faire son chemin.
Ouais.
J'avais pas idée de l'écart que ça représente.
C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et surtout, en France, c'est arrivé très tard. Oui, c'est l'administration française, les lenteurs.
Mais le 19e siècle, je trouve que c'est vraiment l'âge d'or de la femme au foyer qui a pas son mot à dire. Ouais. Enfin, même au Moyen-Âge, on laissait plus la parole aux femmes qu'au 19e siècle. Le 19e siècle, c'est vraiment... Sois belle, occupe-toi des gosses et ta gueule.
Renvoyée à la sphère privée.
C'est terrible.
C'est le capitalisme qui a fait ça.
Exactement. Hein.
Au Moyen-Âge, les femmes travaillaient, par exemple. Elles étaient connues pour avoir souvent dans leur foyer des brasseries où elles faisaient de la bière, elles recevaient des...
Ou même la femme du seigneur, quand son époux partait à la guerre, elle récupérait tout. Enfin, c'était elle qui s'occupait de la gestion du domaine, etc.
Mais avec la montée du capitalisme et la centralisation des moyens de production, on a dit aux femmes, oh là 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 là, vous faites de l'argent, vous n'en retournez au foyer, faites des gosses, et puis on va laisser le fait de l'argent aux mecs.
Hein. Des godemiches à vapeur pour enlever vos crises d'hystérie.
Oui, voilà. Bon,
on a déjà parlé de ça. Passons au sujet.
Ouais. Non, mais en tout cas, en France, le droit de vote, c'est complètement hallucinant. Enfin, le projet est présenté à l'Assemblée nationale au moins à 3 ou 4 reprises avant d'être voté finalement en 45, mais en 1922, en 1932. Enfin, voilà. À chaque fois, le Sénat disait non, c'est pas possible.
On a des choses plus importantes à régler tout de
même. Voilà. Donc cette première vague, elle est importante. Donc le droit de vote, effectivement, dont on parle souvent, mais c'est aussi le droit d'étudier. Les universités étaient interdites aux femmes. C'était même pas envisageable d'apprendre le droit ou la médecine, donc a fortiori de devenir médecin ou avocate.
C'était le droit de vivre indépendamment d'un homme, en fait, d'avoir un compte en banque, travailler.
Exactement.
Il y a une époque où il a fallu demander l'autorisation de travailler.
Mais jusqu'à très récemment,
le compte en banque, c'est années 70. Ouais. Le droit de travailler, la Première Guerre mondiale change un peu la donne, mais après ça se resserre par contre. Hein, voilà. Ouais. Quand les hommes étaient au front, on a dit aux femmes, mais évidemment que vous pouvez travailler. Et après, on avait dit que vous pouviez être. Non.
Mais d'ailleurs, Camille, notre invitée présente, nous en avait un petit peu parlé justement de ce rôle-là qui s'est inversé après la guerre.
Donc voilà, donc cette première vague, elle est importante. Voilà, le droit de vote, le droit d'étudier, le droit de travailler, le droit de gagner de l'argent. Et donc, Marguerite Durand appartient à cette première vague. Elle est née en 1864. Et c'est intéressant de savoir qu'en 1866, donc quand elle a 2 ans, est signé le premier appel à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les signataires, donc il y a Hubertine Auclair, il y a André Léo, qui est donc un pseudonyme. C'était une femme qui avait pris un pseudonyme d'homme pour signer ce texte. Et Louise Michel, quand même, la fameuse révolutionnaire de la Commune. Et donc voilà, c'est dans ce contexte que Marguerite Durand vient au monde, dans le 9e arrondissement, pas très loin de chez moi, à Paris. Et elle naît de père inconnu, dans une famille d'une mère aristocrate, très grande bourgeoisie parisienne, il y a beaucoup de moyens, la meuf est rentière, hein, donc du coup elle n'a pas grand chose à faire à part de s'occuper de sa fille et donc de l'éduquer. Et en fait, je pense que c'est un peu mon petit travers la poudre, j'aime bien imaginer que dans l'enfance déjà se cristallise beaucoup de choses. Je pense que le petit côté un peu badass, un peu frondeur de Marguerite Durand doit déjà se jouer là avec cette mère qui n'a pas eu besoin de mec pour
le contexte a fait que
voilà, exactement. Alors bon, après, elle reçoit une éducation quand même assez traditionnelle. Elle va au couvent avec les bonnes sœurs, comme toutes les filles de bonne famille à l'époque. Voilà, c'est très
restée
chrétien.
Longtemps au couvent, je crois.
Je crois qu'elle passe jusqu'à 18 ans. Elle est enfermée au couvent, grosso modo. Elle sort pour se marier, plus ou moins, mais pour surtout rentrer au conservatoire, car Marguerite Durand était très belle. En tout cas, elle a la réputation d'avoir été une femme très séduisante. Et ce qu'elle voulait, c'était être comédienne, c'était briller au firmament des étoiles de la comédie française. Donc, elle rentre au conservatoire. Elle est très douée parce que c'est une fille plutôt pas con et éduquée. Elle emporte le premier prix du conservatoire et elle rentre à la comédie française où elle joue pendant plusieurs années des rôles d'ingénue, dans des pièces. On peut très bien imaginer qu'elle jouait les rôles de jeune première.
Dans la plupart des classiques.
Dans les classiques de Molière. De Racine, etc. Et elle est, c'est un peu une petite starlette de l'époque, quoi. C'est un peu la hit girl, quoi. Marguerite Durand, meuf, elle a du fric, elle est belle, elle est comédienne, etc. Et très vite, elle se fait repérer par un avocat et député boulangiste qui s'appelle Georges Laguerre. Alors, petite parenthèse sur le boulangisme, c'est une mouvance, en deux mots, c'est un espèce de populisme un peu réac, pas top. Enfin, je sais pas, je caricature un peu, mais c'est.
C'est ça.
C'est populiste, c'est de droite, c'est pas super.
Rien à voir avec la bouffe.
Non, avec le non.
Merci.
Ça ne se mange pas. En fait, c'est nommé après le général Boulanger, qui est le père de ce mouvement. Et donc, elle se marie avec Georges Laguerre, d'avoir une vingtaine d'années, elle est toute jeune, toute fraîche, et là, elle découvre la politique. Et Marguerite, elle est curieuse, elle est mondaine, apparemment elle a beaucoup d'esprit, elle brille en société, elle adore accompagner son mari dans les soirées de l'Assemblée nationale, dans les rencontres avec les journalistes, les avocats, les députés, etc. Très très vite, elle devient une espèce de mascotte du milieu, elle est au courant de tout ce qui se passe et elle s'intéresse énormément à la vie politique. Elle est apparemment mais beaucoup plus intelligente que son mari qui est un peu un gros plein de soupe, un peu con-con. Et en fait, elle devient la coqueluche de ce milieu et elle décide que finalement, ce qu'elle veut faire, c'est pas comédienne, c'est journaliste. Et Marguerite Durand, pour moi, c'est vraiment la sainte patronne des journalistes femmes et des journalistes féministes.
Et puis à l'époque, c'était pas du tout être répandu.
Pas du tout, complètement. C'était carrément transgressif. Alors, donc au début, elle commence à faire quelques petites piges, mais bon, on lui demande de couvrir les soirées mondaines, de la comédie française. Donc elle raconte que Madame Machin portait une crinoline rose. Enfin, c'est très les pages de People, les pages de fin de Voici où on raconte les soirées, etc. Et puis, elle arrive quand même à décrocher un job pas mal. On lui confie la page courrier des lecteurs du Figaro. En 1891, elle est toute jeune, elle doit avoir à l'époque 28 ou 29 ans. Et c'était quand même un sacré taf, c'était une rubrique qu'elle avait complètement inventée. C'était un peu la CM du Figaro, community manager du Figaro. Fallait qu'elle réponde aux courriers, donc voilà, toutes les questions que se posaient les lecteurs et les lectrices du Figaro, c'était elle qui était en charge de les réceptionner et de rédiger les réponses. Et puis, le Figaro, donc, était déjà le Figaro, donc un journal quotidien de droite, un peu réac, décide d'envoyer donc l'une des seules femmes de la rédaction couvrir le fameux congrès féministe qui se tient en 1897 à Paris. Alors, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, il y avait tout un foisonnement féministe. Donc, on est dans cette fameuse première vague que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, tout un tas d'organisations qui se créent, des internationales aussi féministes, avec des liens plus ou moins affirmés avec le socialisme, avec le pacifisme. Ça dépend un peu des mouvances, parce qu'il y a beaucoup de guéguerres en interne. Voilà, Marguerite Durand, pour le coup, a été sur un socialisme un peu soft, une avait qui était carrément anarchiste, une avait qui était au contraire très très cléricale et un peu réac, anti-avortement et tout. Le féminisme à l'époque est un peu à boire et à manger, quoi. Mais bref, elle va couvrir ce congrès et à l'origine, la commande du Figaro, c'est
Taillée, c'est de la merde.
Exactement, on va te foutre un peu de la gueule de ces nanas qui racontent n'importe quoi, genre elles veulent voter, aller faire des études.
Vas-y, n'importe quoi.
Vas-y Marguerite, fais-nous un bon papier en bonne et due forme pour dénoncer leur délire. Sauf que Marguerite y va.
Elle n'est pas d'accord.
Elle est subjuguée. Elle entend ces femmes défendre des idées avec une telle justesse, et ça lui paraît tellement, mais coulé de source que ce qu'elles défendent, ce qu'elles disent, et j'ai des petits frissons à vous le raconter, incroyable. Elle est donc subjuguée par l'oratrice en particulier qui s'appelait Maria Pognon. Et Maria Pognon, elle a passé à la postérité comme ça. Et elle revient au Figaro en disant, les mecs, déjà, de un, votre papier, vous pouvez vous le foutre dans le cul parce que je ne vais pas vous l'écrire.
En plus,
de deux, je démissionne. Et de trois, je vais créer un journal féministe pour aider ces idées à éclore dans la société, pour les porter plus loin, plus haut, plus fort. C'était une nana qui était hyper ambitieuse quand on y pense à l'époque. Elle, en quelques mois, elle claque la porte, elle décide de monter son journal. Et là où j'aime bien ce personnage, où elle me plaît, peut-être que je m'identifie aussi un peu à elle, c'est qu'elle est maligne, quoi. Marguerite Durand, elle se laisse pas emporter par le truc de la militante sans le sou qui lève le poing en hurlant à l'injustice. Non, elle fait jouer un petit peu son petit réseau parce que voilà, elle est bien en place. Elle divorce entre-temps, je ne sais plus à quel moment, mais c'est grosso modo au même endroit, elle dit fuck à son mari. Mais elle connaît du monde à Paris, elle arrive à récolter un peu d'argent et donc elle décide de créer La Fronde. Et donc, quelques mois plus tard...
Alors, je me dois de t'interrompre parce qu'on a eu cette discussion auparavant. Je me suis toujours demandé si La Poudre avait un rapport avec La Fronde. En matière, dans le nom.
Non.
Aucun.
Mais non, parce que j'ai Très rencontré bien. Marguerite Durand après avoir créé La Poudre.
Bon, moi, je viens de perdre 30 balles.
T'avais fait un pari ?
Non, c'est faux.
Mais non, mais c'est marrant parce que je m'identifie à elle quand même en pas
mais
mal d'aspects.
Et notamment, quelques similitudes, effectivement.
Mais non, mais c'est assez marrant. Mmh. Et surtout, quand on lit ce qu'elle écrivait à l'époque, il y a l'édito du numéro 1 de La Fronde. Mmh. Elle a un discours où elle dit « Il est temps que la voix des femmes s'élève. On a marre que les femmes soient toujours entendues par les hommes. Il faut créer un espace où il n'y ait que des femmes qui parlent. »
C'est très innovant pour l'époque.
C'est carrément révolutionnaire.
Mais ça a de flippant que... Bah, c'est con, mais c'est un discours qu'on peut entendre aujourd'hui.
Exactement.
Chez des personnes qui a peut-être autour de cette table, qui est peut-être toi.
Un petit peu.
Et d'un côté, c'est comme tu dis, ça fout un peu les poils de dire « Ah putain, c'est super encourageant. » Mais d'un autre côté... Putain,
100 ans plus tard, on est au même endroit.
Oui,
ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, La Fronde, c'est ambitieux. C'est quand même un quotidien. C'est un journal qui sort tous les jours pendant 6 ans, entre 1887 et 1903. Elle embauche une rédaction où il n'y a que des femmes. Elle a une rédaction de meufs, des maquettistes, c'est des meufs, les correctrices, c'est des meufs. C'est un espace, carrément, c'est un espace vraiment non mixte qu'elle crée, ce qui est aussi extrêmement radical. Mais elle arrive à le faire avec la bénédiction et le soutien de pas mal de personnes dans Paris. Voilà. Et ce qui est amusant avec La Fronde, c'est que donc elle envoie toutes ces femmes couvrir tout ce qui se passe à Paris, l'actualité notamment politique. Sauf que il y avait des espaces comme par exemple la bourse de commerce où s'échangeaient les biens, où l'économie se faisait, ou même l'Assemblée nationale qui étaient des lieux interdits aux femmes. Donc il y a des dérogations qui sont demandées au préfet de Paris. Qui leur fait des petites lettres. Ben non, c'est bon, elle a le droit, elle est journaliste. Et à l'époque, certains commentateurs pensent que Marguerite Durand a clairement fait évoluer les mentalités, notamment en faveur des femmes politiques à l'Assemblée. Alors, il faudra encore pas mal de temps pour que ça se produise. Mais d'un seul coup, les hommes se mettent à côtoyer dans cette enceinte qui était exclusivement masculine jusqu'à maintenant, des femmes. Donc, elle fait évoluer les mentalités tout simplement en créant un média féministe. Et encore une fois, je trouve que le pouvoir en fait
fou,
du média, quoi.
Elle a eu l'intelligence de mettre en œuvre son projet de manière super juste.
Exactement. Et donc voilà, La Fronde, c'est rue Saint-Georges à Paris dans le 9e. Et Marguerite Durand décide de faire quelque chose d'assez chouette, de constituer un fonds documentaire pour ses journalistes. Donc à l'époque, il n'y avait pas Google. c'était compliqué de s'informer sur des questions concernant les droits des femmes. D'autant plus que c'était des questions qui étaient très occultées. Même dans une librairie ou une bibliothèque, on trouvait très peu de livres écrits par des femmes. C'était des sujets qui étaient très peu traités. Donc elle décide, avec un petit côté aussi un peu, j'ai l'impression un peu collectionneur, un peu fétichiste, d'aller rassembler toute une documentation sur les droits des femmes, sur la lutte féministe. Donc elle va dans les ventes aux enchères acquérir des choses, des pièces hallucinantes, comme par exemple justement les placards de L'Imbe de Gouges, parce que L'Imbe de Gouges aussi était une journaliste, sauf qu'à l'époque le journal on le placardait au mur. Donc elle allait dans des imprimeries clandestines imprimer ses textes très sulfureux, quoi, pour l'époque. Elle les collait sur les murs de Paris. Donc voilà, Marguerite Durand va acquérir un des placards de L'Imbe de Gouges, mais aussi la correspondance complète de Louise Michel, mais aussi un manuscrit de Colette, qui à l'époque est une jeune autrice oui, qui n'a pas encore percé.
C'est ce que j'allais dire.
Attends, tu veux dire que Colette est une femme?
Mais oui. Ce n'est pas un magasin de vêtements non plus. et voilà, donc elle accumule en fait tout un tas de documents, de livres, de manuscrits, de correspondances. Et aussi, elle suit toutes les femmes qui rentrent à l'université. On est au tout début du XXe siècle et il commence à y avoir certaines bachelières qui vont faire des doctorats, des thèses. Donc elle collectionne aussi les thèses et les mémoires universitaires écrits par les toutes premières femmes qui vont à l'université.
Une merveilleuse collection.
Non, mais c'est une merveilleuse collection. C'est un fond documentaire absolument incroyable.
Elle se crée son centre d'archives, quoi.
Elle se crée son centre d'archives, donc à l'origine destinée à ces journalistes. Mais voilà, quand la Fronde finit par fermer en 1903, faute de moyens et un peu, je crois, de soutien politique, elle décide de continuer à enrichir ce fonds. Et en 1931, elle en fait don à la mairie de Paris et demande à ce que soit créée la bibliothèque Marguerite Durand.
La fameuse. Quelques malheurs récemment.
Voilà. Et en fait, moi, je suis tombée sur Marguerite Durand parce que j'ai découvert que la bibliothèque Marguerite Durand était menacée de fermeture.
Mais c'est fou, ça a dû te faire un choc monstrueux parce que ça serait fou de dire qu'il n'y a aucune correspondance entre les deux histoires. Donc ça a dû te faire un choc fou de voir, après avoir toi-même avoir fait, eu ton parcours professionnel... voir qu'elle avait suivi un peu le même chemin 100 ans plus tôt.
J'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré quelqu'un, un
doppelganger du passé.
Ouais.
Marty.
C'est tellement ça. Donc voilà, donc la bibliothèque Marguerite Durand, elle s'installe à l'endroit en face du Panthéon, dans la mairie du 5e. Voilà, il y a un petit œil de bœuf au-dessus de l'entrée de la mairie. Des féministes historiques m'ont expliqué que c'était là que ça se tenait à l'époque, avec des larmes dans les yeux, parce que c'était vraiment un lieu où toutes les femmes qui faisaient des études de genre avant que ce soit quelque chose de très répandu. Enfin, c'est encore assez marginal, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà, à l'époque, elles venaient faire leurs recherches dans cette bibliothèque, etc. Et Marguerite Durand demande à en être la directrice. Et donc, elle la dirigera jusqu'à sa mort en 1936. Et je crois qu'elle est littéralement morte dans les murs de sa bibliothèque. Donc voilà. Ouais, j'ai fait une accélération assez rapide jusqu'à sa mort. Mais en fait, après la fin de la Fronde, elle continue à faire pas mal de choses. Qu'est-ce qu'elle fait ? En 1909, elle veut se présenter, par exemple, aux élections législatives. Elle n'a pas le droit. C'est interdit aux femmes à l'époque.
Bah oui.
Et donc, sa candidature est invalidée par le préfet de Paris. Ça va jusqu'au Conseil d'État. Et le Conseil d'État balaye l'affaire en disant, en fait, non, la loi ne s'applique pas aux femmes. Grosso modo, on n'a même pas besoin d'acter puisque les femmes ne sont pas concernées par ce qui est écrit dans la loi. Ouais, mais elle était...
Vous n'êtes pas des citoyennes normales. Ok, salut.
Oui, mais là, tu t'inscris dans une époque.
Oui, mais c'était la même chose. À l'époque, ça devait être fou d'entendre que, ok, vous n'êtes pas l'équivalente.
Oui, mais cela dit, mais ce que dit Ilias, c'est très juste parce que ça me fait penser à ce que dit Louise Michel, par exemple, dans les fameux extraits de son procès qui sont très connus. Elle disait, attendez, vous êtes en train de me juger. Mais pourquoi vous me jugez puisque je suis pas une citoyenne, j'ai pas le droit de vote, j'ai pas le droit de travailler, donc d'où la loi.
Je suis l'équivalent d'un lapin. Pourquoi vous me mettez au tribunal?
C'est exactement le discours des femmes de l'époque. Et il y avait une grande radicalité, notamment à l'époque les suffragettes anglaises qui allaient vraiment très loin. C'était des grèves de la faim. Il y avait des manifestations qui finissaient parfois avec des morts. Enfin, quand c'est le Black Friday, il y a une femme manifestante qui se fait tuer dans la. Enfin voilà, c'était effectivement tellement aberrant, tellement atterrant que on pouvait parfois en venir. Donc voilà, donc Marguerite Durand fait tout ça, mais avec le sourire et toujours avec une grande volonté de conciliation. Et j'aime bien sa personnalité.
Motivation sans faille.
Voilà, et j'aime bien aussi l'histoire de sa rivalité avec Madeleine Pelletier, qui était une autre féministe très connue de cette époque, vraiment un peu aussi une hit girl de féminisme, mais alors pour le coup, rien à voir. Madeleine Pelletier, famille très très pauvre autour du quartier des Halles. Je crois que sa mère vendait des légumes aux Halles, a eu 12 enfants, il n'y en a que 2 qui ont survécu sur les 12. Bonne ambiance.
Ah ouais, bon départ.
Ouais, bon départ dans la vie. Son père était hémiplégique. Enfin voilà, Madeleine Pelletier, un peu vie de merde. Et première femme de France diplômée en psychiatrie.
Ah, voilà. Pas dégueu, plus voilà. Notable.
Ouais. Très, très brillante à une époque où, comme le rappelait Camille, on avait tendance à, quand une femme était présentée des signes de folie, on pratiquait volontiers
le godet vapeur. Oui.
Ouais, mais même l'excision. Hein, l'excision, on regarde cette pratique comme si c'était quelque chose de très lointain, qu'à partir de culture.
Malheureusement,
que non.
Mais voilà, ça a été pratiqué en France, en Angleterre, sous des périodes puritaines où on considérait que c'était. Bref, donc Madeleine Pelletier, féministe extrêmement radicale, qui considérait qu'il fallait jeter tout ce qui relevait de la féminité. Donc lesbienne revendiquée, s'habillait en mec, ce qui à l'époque était illégal, quoi. Mmh. Et voilà, qu'elle était super badass, très 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 communiste, très très de gauche, et ne supportait pas la façon dont Marguerite Duras pouvait faire des arrangements, des compromis avec le pouvoir. Mais quand il s'agissait de lever des fonds, de trouver un peu de sous, de passer un message, elle allait voir Marguerite Duras en disant « Marguerite, vas-y, file-moi un coup de main, organise un crowdfounding pour mon truc. » C'est comme elle avait un petit réseau, pas mal de followers, Marguerite, elle arrivait à lever des fonds pour ses potes un peu plus radicales qu'elle. Et j'aimais bien cet aspect-là. Et voilà, et Marguerite Duras, il y a cette phrase très connue, on ne dira jamais assez ce que le féminisme devait à mes cheveux blonds. Et voilà, elle était marrante comme ça, Marguerite, j'aimais bien.
C'est une super histoire. Et voilà. Je vous propose de trinquer, même si nos verres sont vides.
Pas le mien.
À Marguerite.
À Marguerite, ouais, carrément.
Merci. Oh, comment ça cheat de partout. Pas pour balancer, mais.
Par Bluetooth, les gars.
Vous êtes tous trop loin.
Bon, on trinquera après.
Cette table est trop grande.
Et bah, c'était sincèrement un énorme plaisir.
Merci.
Oh, c'est vrai, ça allait. Ouais, carrément. Ouais, je suis trop émue d'avoir fait ça. Merci.
Bah, ça me retourne plus qu'autre chose parce que ça me révolte. Je pense qu'à l'époque j'aurais été terroriste, mais.
le 19e siècle, c'est pas ton siècle, toi. Ah, c'est vraiment.
C'est l'enfer, mais des godes à vapeur, t'imagines. Putain.
Ce qui me fait ça me rêver, c'est que c'est le truc qui t'a le plus choqué dans le 19e siècle.
Mais oui, t'imagines le bordel.
C'est la période des tampons aussi, très gros.
Ouais, ça déjà, oui, c'est notre histoire. Mais putain, déjà. Bon. Bien. Non, vraiment top. Super cool. Et on vous encourage à vous renseigner sur elle, à vous rendre à la bibliothèque. Bref. Et puis surtout, juste à communiquer là-dessus. Le moindre message est intéressant, important sur juste en plus votre avis, votre ressenti. Donc.
Ouais, parce que la bibliothèque, on l'a sauvée, il faut quand même le dire. Ouais. Elle a failli être complètement fermée, délocalisée, mais elle est encore là, grâce à une mobilisation féministe, d'ailleurs sans précédent quand même. Mmh. Elle était vraiment importante et chouette. Donc elle est encore là. Rue Tolbiac. Dans le 13e, c'est un étage. Hein. C'est vraiment très déceptif hein, quand on rentre dedans. Genre, c'est un étage. C'est une petite mezzanine.
Après, tout ce que t'as dit, il y a toute une histoire derrière.
Mais voilà, il y a des fonds d'archives hallucinants. Et il y a un épisode de La Poudre, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui s'appelle l'épisode Marguerite Duras, où j'interview Christine Barr, une historienne passionnante, qui en parle hyper bien. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, cet épisode-là, que je recommande aussi, si je peux me permettre.
Là, je reviens, bien sûr. Pour la petite histoire, je suis passé devant tous les matins pendant plusieurs années et me suis rendu compte vraiment que de cette bibliothèque, que lorsqu'il y avait commencé à y avoir des débats dessus.
Grâce à
parce qu'elle a un design très discret, finalement, on la remarque pas.
Bah, elle fait bibliothèque communale, quoi.
Mmh. Oui, on peut dire ça. En tout cas, on est très contents qu'elles soient encore là.
Un petit grand écart vers le sujet du Captain.
Oh, Captain, my Captain.
Sujet est un bien grand terme. On va débattre aussi, tu vois, c'est ça. Côté improvisation, moi, j'aime bien cette
chose. On va essayer de faire ça.
Je clique sur imprimer.
Et voilà, travail.
Mais c'est très dangereux, ça, Félix.
Mais oui, Thérèse, il est drôlement dangereux.
Alors, sujet dont j'avais déjà parlé, mais vous ne l'avez pas forcément écouté, parce que c'était il y a très très longtemps. C'était en 2012 qu'on commençait à parler de ça un peu. Alors, le sujet de fabriquer soi-même ses armes, je sais pas, j'imagine que personne autour de vous l'a fait autour de cette table.
J'ai pas essayé. Non, alors, j'ai déjà fabriqué une fronde.
Voilà, bon, ça s'est arrêté là.
Et j'ai déjà essayé de fabriquer un pistolet en bois, parce qu'il y a une mécanique pour faire un pistolet avec
des élastiques.
Avec des boîtes d'allumettes. Non, mais tu peux vraiment fabriquer une arme létale quand elle est utilisée à bout portant avec du bois.
Oh là là, vous me faites peur.
Bon, oui, il y a plein. Après, voilà, on peut être original. Il y a plein d'idées, si tu veux, pour s'amuser comme ça. C'est un peu du do-it-yourself.
Voilà. Mais pour tuer des trucs.
Voilà. Alors bon, la législation pour les armes, on la connaît dans les différents pays du monde. En France, c'est plutôt pas autorisé. Bon, évidemment, t'as le droit aux armes de chasse,
pas,
etc.
Oui.
Et voilà. Par contre, aux États-Unis, c'est le second amendement.
Open bar.
Ah, bah
voilà. Donc, on touche pas au second amendement aux États-Unis. En tout cas, bon, vous avez les pro-NRA et il y a énormément de monde qui tient ce second amendement qui dit que si tu as le droit de porter une arme à feu pour pouvoir te défendre. Mmh.
Voilà. Ça, c'est... Quel que soit l'âge d'ailleurs aux États-Unis, je me suis
alors justement,
demandé...
oui, il n'y a pas de limite sur l'âge. Ouais. Et, tout à fait, il n'y a pas de limite sur l'âge au second amendement. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de voir, il y a un documentaire, une série en fait documentaire qui sort, qui est fait par Sacha Baron Cohen, qui s'appelle This is America. Et regardez
c'est,
le trailer.
C'est Who is America?
Who is America, peut-être, ouais, exact. Regardez ça, parce que d'accord. C'est, donc, il est allé, il s'est déguisé, il est allé interviewer des gens et, pro NRA, si tu veux. Et effectivement, ça parle du fait qu'il n'y a pas de limite chose, ouais. Sur le portage. C'est absolument excellent.
Il est allé jusqu'à piéger Sarah Palin, je crois, exactement.
Alors, j'ai juste vu le trailer, en fait. Mais le trailer dure 9 minutes. Si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça devrait vous interpeller. Tout ça pour dire que, ça pourrait sembler un cauchemar, mais pourtant, nous y sommes, ça y est. Chacun peut aujourd'hui créer son arme chez lui à peu de frais. Alors avant c'était un fantasme, imagine créer une arme à feu, ça semble compliqué, il faut travailler le métal, il faut connaître, c'est très précis, etc. En 2012 en fait on a quelqu'un qui s'appelle Cody Wilson qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. C'est le héros de ce qu'on appelle le crypto-anarchisme. Alors le crypto-anarchisme c'est quoi? C'est un anarchisme lié à Internet et au fait qu'on puisse faire dire ce qu'on veut, évidemment, ça c'est le premier moment, mais surtout diffuser des choses sur Internet qui ne sont pas autorisées normalement.
Et le fait c'est ce qui est guérilla, c'est un libertarien, c'est ça.
Okay. Ouais, alors c'est ouais. Un peu plus compliqué que ça, parce qu'en plus, Cody Wilson, il est un peu particulier. Il est pas, il est censé être de gauche. Enfin, bon, aux États-Unis, la gauche, c'est pas forcément celle qu'on a ici.
Oui.
Mais il est pro-NRA et vraiment, une de ses fixations, c'est le fait que tout le monde ait le droit d'avoir une arme. Mmh. Et pour que tout le monde ait le droit d'avoir une arme, lui, son idée, c'était qu'avec les nouvelles technologies, et particulièrement les imprimantes 3D, on pouvait enfin avoir un accès total à ça. Et ce qu'il suffisait de faire, en fait, c'était de créer des armes à feu en 3D. Et il l'a fait. Il a créé ce qu'on appelle le Liberator, qui est la première arme qui était faisable sur une imprimante 3D classique. On peut acheter aujourd'hui, franchement, une imprimante 3D, ça coûte quoi?
200,
voilà, 200, ça 300, commence ouais. À 200, 300 euros. T'en as une très bonne à 1000 euros, 1500, 2000 euros. Et il a donc créé cette arme qui s'appelle le Liberator. Et il l'a testée. Alors évidemment, c'est une arme en plastique. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, évidemment, c'est que ça passe les portiques d'aéroport.
Exactement. C'est un inconvénient pour les forces de l'ordre.
Alors, c'est un inconvénient pour les forces de l'ordre. Pour ceux qui voudraient, effectivement, pouvoir voyager tranquille avec leur arme, c'est pas mal.
Les balles, du
coup. Alors, c'était effectivement pas usage unique. Je crois que les dernières versions qu'il a faites de son libérateur, il pouvait quand même tirer 3-4 coups avant, avant que l'arme tombe en morceaux ou t'explose à la gueule.
Mais les balles sont pas en plastique.
Non, alors ça, évidemment, c'est autre chose.
Il se fait couiller.
Les munitions, ça reste autre chose.
Les munitions.
Ouais, tout à fait. En tout cas, c'est ce passage, si tu veux, du Fab Lab à l'armurerie un peu personnelle que tu peux avoir chez toi, c'était une grande étape. Et surtout, c'est pas le fait qu'il ait réussi à le faire, parce qu'il avait fait, bon, il a un channel YouTube, il avait montré tout comment ça se faisait, mais surtout le fait qu'il ait mis à disposition les schémas gratuitement sur Internet. Ouais. Donc, il les a mis en ligne. Évidemment, ça a été chargé des dizaines, des milliers de fois. Et avant que le gouvernement fédéral s'en occupe et qu'il fasse retirer ça, ça a duré 6-7 mois, autant dire qu'aujourd'hui, tout le monde y a accès.
Bah d'ailleurs, il me semble qu'il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Print the Legend, qui parle d'impression 3D, où il parle de ce mec-là qui a mis son modèle 3D à disposition sur le site d'un revendeur d'imprimantes 3D qui avait fait une bibliothèque commune.
Ouais.
Et en fait, ça a fait un bad buzz monstrueux pour la marque parce que eux, à la base, leur trip, c'était plutôt de faire des prothèses pour les enfants, etc. Et là, il y a un mec qui a mis à disposition un modèle de flingue qui a été téléchargé énormément.
Ouais. C'est un peu la chaîne alimentaire, si tu veux, du truc. C'est-à-dire que d'abord, tu crées le flingue et après, tu peux, t'as les prothèses pour sauver les personnes.
Damage control.
Ouais, ouais. Et donc, ce gars-là a créé, entre autres, quelque chose qui s'appelle Wiki Weapon, qui était un wiki uniquement dédié à la création d'armes comme ça. Il y a le Liberator, mais il y en a plein d'autres. Parce qu'il allait jusqu'à créer un AR-15. L'AR-15, il est connu parce que c'est ce fameux fusil automatique qui est utilisé par toutes les tueries de masse aux États-Unis.
D'accord.
Et donc, il a réussi à créer ça. Au-delà de ça, en fait, alors, faut rentrer un peu dans la technique. Une arme, aux États-Unis, enfin partout d'ailleurs, c'est composé de plusieurs parties. Aux États-Unis spécialement, il y a une partie qui est considérée comme l'arme en tant que telle. Le reste, c'est quasiment des accessoires. Cette partie, c'est ce qu'on appelle le lower receiver, qui est en fait la partie qui comprend la gâchette et l'introduction des balles quand elles passent dans le canon.
Mmh. Okay.
Cette partie-là est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui contient le numéro de série.
Okay.
En fait, quand on te vend une arme, on te vend d'abord ce lower receiver, je sais plus comment ça s'appelle en français. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est suivi et ce qui est permet de retracer.
Quand tu vas taper une balle, ça va la marquer.
Non, alors ça marque pas du tout la balle. Par contre, il y a un numéro de série normalement qui est gravé sur ce truc-là.
Sur l'arme. Okay.
Ouais, sur l'arme. Et donc, à partir de là, ça permet d'identifier chacun.
Ça
permet
de
savoir qui l'a acheté, ce genre de choses.
Ouais, voilà. Bon, après, ça a des limites, c'est les États-Unis. Je sais pas si vous aviez vu d'ailleurs, il y avait un reportage qui était assez intéressant sur je sais plus quel site, où ils expliquaient que la NRA avait bloqué le fait de pouvoir simplement avoir un fichier qui contient tous les possesseurs d'armes à feu aux États-Unis.
Ouais.
Donc, parce qu'évidemment, c'est pas leur avantage. Plus la NRA lutte contre le fait que les possesseurs d'âmes à feu soient
catalogués.
Exactement. Donc, ils avaient fini par obtenir, si tu veux, une sorte d'agrément avec le gouvernement. Ils avaient dit, bon, ok, vous avez le droit de le faire, ok, on comprend que vous ayez besoin de ça. Par contre, ce sera pas numérisé. Donc, en gros, vous avez un endroit aux États-Unis où les mecs reçoivent des caisses de papier tous les jours.
Oh,
et tous les jours, ils prennent ces caisses de papier, si tu veux, et ils ont tellement de papier de mecs qui achètent des armes qu'ils ont des containers maritimes sur le parking où ils stockent les trucs en attendant de pouvoir les traiter. C'est hallucinant, regardez ça à l'occasion, parce que c'est très intéressant sur la façon dont fonctionne la puissance de la NRA et ce qu'ils arrivent à faire aux États-Unis.
Si quelqu'un cherche un boulot sympa d'attaché administratif, un truc.
C'est un stage.
Ouais, ben, bosser là-bas, ça va être fort.
Mec, tu vas me photocopier tout ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, les mecs, en plus, ils sont genre 10. Donc, en fait, quand il y a la police scientifique qui leur demande à qui appartient cette arme,
les mecs,
ils sont obligés de sortir leur fiche et de faire, ah ouais, mais c'était il y a un an et tout, on n'a pas encore trié, ça doit être dans un container là-bas, on va essayer de le trouver, quoi.
Voici un masque, voici un tuba. Voilà. Démerdez-vous.
C'est ça. C'est à Gaston Lagaffe avec sa bibliothèque.
Ouais. Exactement, bah, c'est un peu ça. Donc, c'est pour donner un peu une idée du truc. Donc, c'est ce qu'on appelle les armes fantômes, en fait, ces armes qui donc seraient créées par les particuliers ou par des armureries d'ailleurs, parce que les armureries eux ont la possibilité de créer des receveurs. C'est très compliqué, mais ça se fait. Donc ces armes fantômes, c'est des armes qui sont pas officiellement rentrées dans le système, à savoir qu'elles n'ont pas été créées officiellement par un fabricant d'armes, et donc il n'y a pas de numéro de série qui est lié à ça. Donc en gros, pour avoir sa propre arme aux États-Unis, si tu as ce receiver, le reste ça s'achète très facilement, le canon, la crosse, etc.
Limite au drugstore du coin, quoi.
Ouais, tout à fait. Okay. T'as pas besoin de permis pour ça, en fait. Ouais. Parce qu'on demande un permis pour acheter l'arme en tant que telle, et donc ce receveur, le reste, c'est des pièces détachées. Même les munitions, par contre, tu dois peut-être avoir besoin de quelque chose, mais ça a pas l'air d'être si compliqué que ça à obtenir une fois que...
Mais tu fais même pas le, tu sais, ils te font remplir un petit formulaire comme quoi t'as pas d'antécédent judiciaire, que t'es pas fou et tout.
Alors, a priori, c'est le cas, mais c'est le cas uniquement quand t'achètes cette arme.
Voilà.
Donc, du coup, si toi, tu as le bloc principal,
donc c'est que pour ça, que pour le receveur.
Ouais, a priori, ouais. Pour ce qu'ils appellent les accessoires, en fait, qui est tout le reste de l'arme, t'as pas besoin de ça, ouais. Est-ce que le canon est un accessoire du receiver? Et donc c'est vraiment cette partie-là qui est l'enjeu du truc, parce que c'est la seule chose qui c'est le cœur du mécanisme. Mmh. Et donc c'est là-dessus que Cody Wilson s'est vraiment penché sur son truc, et c'est ça qu'il a distribué. Alors, effectivement, en 2012, il fait ça. En 2013, le truc est interdit et il se lance dans une bataille juridique qui a duré jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2017. 4 ans de bataille juridique. Je pense que c'est pareil.
Il a perdu
devant la Cour suprême. C'est les États-Unis, voyons. Il n'a pas perdu, il a gagné, ce qui fait que nous entrons le 1er août prochain dans une nouvelle ère, c'est ce qu'ils appellent, c'est l'ère du téléchargement d'armes, puisqu'à partir du 1er août, ce sera totalement autorisé de diffuser des schémas pour les imprimantes 3D sur Internet pour imprimer voilà, sa propre arme. C'est clairement lié. Mmh. Donc, encore une victoire de la NRA qui, évidemment, soutenait Cody Wilson. Donc, la vraie bataille, c'était ça. C'était la libre distribution, en fait, des schémas qui permettaient d'imprimer des armes à feu.
Mais je trouve ça quand même assez étonnant qu'ils soient tous soutenus par la NRA, parce que je suis pas un expert du tout en NRA, mais ils ont quand même des gros liens avec les revendeurs, toute l'industrie des fabricants, etc. Or, c'est un modèle qui est un peu du hacking de ce marché-là.
À mon avis, ils savent qu'il y a très peu de personnes qui vont le faire au final.
Ouais, c'est vrai.
Faut voir, parce qu'il faut quand même le vouloir. Faut avoir son imprimante.
Surtout qu'ils veulent défendre leurs droits avant tout, en fait.
Ouais, c'est ça.
Ils disent que ça, c'est protégé. Eux seront protégés. Et en plus, ça va faire diversion.
Devant les tribunaux, Cody Wilson et son association, parce qu'ils ont créé une association qui est dédiée à ça, c'est une grosse association quand même. Ils ont 10 salariés, pour vous donner une idée de du boss.
Freegun fight for mass murder.
C'est ça. Et en fait, il s'est basé sur quoi? Sur les deux premiers amendements. Premier amendement, la liberté d'expression. Et donc,
diffuser
ce que tu veux, exactement.
La liberté d'expression, à ce compte-là, je peux assassiner quelqu'un dans la rue et c'est l'expression, quoi. Enfin,
c'est le deuxième amendement, c'est le droit de porter une arme. Les deux ensemble, effectivement, ça, voilà.
Je vous propose qu'on ne discute pas trop la constitution américaine, sinon on est là pour 6 mois.
Oui, bon, je pense qu'on aura tous des avis qui sont à peu près identiques là-dessus.
Ouais.
Par rapport à la France, c'est vrai que c'est un gros décalage culturel.
Ah, mais clairement, oui. Ouais, c'est clair.
C'est hallucinant. D'ailleurs, je sais plus combien de meurtres il y a tous les ans là-bas par arme à feu.
Un par jour,
déjà.
Je crois que Los Angeles, c'est une ville.
On vous ressentira les stats, mais surtout que cette année, ils ont battu des records. Et en plus, avec les mass murders qu'il y a eu depuis le début de l'année, c'est absolument monstrueux.
Les fusillades dans les écoles, je crois que c'était quasiment une par semaine depuis le début de l'année.
C'est complètement fou.
Parce qu'on voit, on entend parler des grosses fusillades, mais des fusillades dans les écoles où il y a un, deux morts, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais en tout cas, c'est très souvent. Alors bon. Voilà, donc en gros, c'est plus un fantasme de science-fiction. On est vraiment arrivé à un moment où tu peux le faire. Alors, l'imprimante 3D, c'est imprimé en plastique. Donc, c'est vrai que c'est facile, c'est accessible à tout le monde. mais on reste limité par ce côté plastique qui fait que l'arme, effectivement, même si c'est très bien fait, elle va s'autodétruire toute seule.
Bah oui, j'allais dire, ça fond, en fait, voilà. Avec la chaleur.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on passe là à l'étape suivante. Ça s'appelle la CNC. Alors, les CNC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non, pas du tout. Centre National des Cinématographies.
Oui, alors, il y a ça. Mais c'est surtout, alors, c'est en anglais, c'est des machines, machines-outils à commande numérique. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, c'est un peu comme les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, elle va te prendre, elle va partir de rien, elle va te créer quelque chose. Mm-hmm. La CNC, elle va te prendre un bloc, elle va découper dedans, si tu veux, pour te faire quelque chose. Ce qui veut dire que tu peux découper dans du métal.
Ah putain. Ah.
Donc tu prends un bloc d'aluminium, et avec, c'est une CNC qui coûte pas très cher, hein, c'est plus cher que les imprimantes laser, effectivement, mais c'est comme si tu avais une petite perceuse, et en fait, ta perceuse, elle va te trouer le bloc, et elle va te le recréer au millimètre près.
Au secours.
Voilà. Ah. Ah. Et donc, cette CNC qui aujourd'hui, les prix ont énormément baissé aussi, tu peux les acheter pour peut-être 2000 euros, tu as une très bonne CNC. Tu peux créer avec ça et avec les plans donc, de Défense Distributed, qui est l'association de Cody Wilson, tu peux créer ton propre bloc. Voilà.
C'est l'enfer.
Et qui n'est pas immatriculé du coup.
Donc, non, qui n'est évidemment pas immatriculé. Et alors, c'est assez génial parce que du coup, Cody Wilson, ce qu'ils se sont dit, bon, c'est sympa de distribuer les codes, mais il faut peut-être aller plus loin. Donc maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils distribuent les fichiers pour créer soi-même une CNC que tu peux construire chez toi. Donc tu peux construire la CNC qui après servira, si tu veux, à construire ton receiver.
Mais c'est de l'incitation à la violence, en fait.
C'est l'incitation à utiliser son second amendement, si
non,
tu veux.
Ouais, voilà, c'est tout le débat aux États-Unis. Une arme à feu n'est pas violente en
voilà,
elle-même.
Voilà, un Américain, tu dirais que c'est de l'incitation à se défendre. Ouais, ouais. Voilà. Ouais.
Et donc, si vous regardez, il y a des, il y a plein de documentaires sur YouTube là-dessus. Il y en a un qui a été fait par un journaliste de Wired, qui donc, lui, n'y connaissait pour le coup vraiment rien, et qui a acheté une CNC, et qui a créé lui-même son receiver. Et il le teste en réel, et c'est impressionnant, parce que c'est vraiment, c'est les fameux AR-15, là. Mm-hmm. C'est des fusils d'assaut qui te tirent du, je sais plus, 20-30 munitions à la minute, et ça marche très très bien. Alors évidemment, ça reste souvent, c'est fait dans les blocs d'alu, donc c'est pas aussi solide que ça peut être si c'est avec du métal plus avancé. Mais
ouais, pour un truc imprimé à la maison,
quand même,
elle peut te tirer 600 balles avant de connaître les premiers problèmes.
Oh, putain.
Donc, t'as le temps de tuer des gens avec.
Ouais, ouais. Carrément, t'as le temps de faire un carnage. Ouais.
Et donc, on pourrait penser que ça reste de la science-fiction malgré tout, mais non, puisque je crois que c'était il y a 2-3 ans, il y a un mec qui avait des problèmes mentaux qui a tué 5 personnes avec une arme qu'il avait fabriquée lui-même. Petit truc fun, on lui avait retiré ses armes avant, justement à cause de ses problèmes mentaux, il les avait rendues, si tu veux. Et il a réussi à en fabriquer lui-même, et donc à commettre ces meurtres.
Quelle angoisse.
Mais c'est fou que ces arguments n'aient pas eu plus de poids au niveau juridique lors d'un procès, en fait.
Bah, je pense que la NRA a beaucoup joué là-dessus, de dire, voilà, c'est... parce que du moment que tu mets, ne serait-ce qu'en doute, je pense, le second amendement, pour la NRA, c'est pas possible. Ils ont besoin de lutter contre ça. Même si, de toute façon, on voit bien ce qu'ils ont fait dans toutes les tueries qu'il y a eu. Ils soutenaient quoi qu'il arrive. Leur argument, c'est non, mais pour.
C'est la personne qui est instable, c'est pas la faute des armes.
Exact, c'est pas la faute des armes. Donc, armons les professeurs. C'est le grand thème.
Ils ont une excuse, moi, qui me rend dingue, c'est regarder tous les attentats qu'il y a en France avec les voitures.
Oui, voilà.
C'est pas la faute de la voiture, c'est la faute du type.
Ouais.
Non, mais.
Sauf que si tu prends même si tu compares le nombre de meurtres comme ça par rapport à la population, je pense que les États-Unis sont loin devant, quoi.
Mais c'est même Trump, je crois, qui avait dit carrément que si les gens dans la salle au Bataclan avaient eu des armes, il avait fait un discours, le lendemain du Bataclan, un truc comme ça, assez rapidement.
Et il a dit plusieurs fois ça dans la gueule après les attaques d'Orlando.
Qui ont tombé pas longtemps plus tard, mais ça m'avait choqué, moi, ce discours.
Anyway.
Et évidemment, le truc marrant, c'est que Cody Wilson et toute sa petite équipe, en fait, ils soutiennent aussi, ils utilisent l'argument du libre et de l'open source pour défendre aussi leur truc. Donc c'est
Linux open source, pourquoi pas avoir des armes open source.
Exactement. Et donc en tout cas, à partir du 1er août, c'était là où je voulais en venir, on a donc c'est la dernière étape, savoir que ce sera officiellement autorisé, donc évidemment aux États-Unis, mais c'est internet, donc n'importe qui en France pourra télécharger ces schémas qui étaient déjà plus ou moins accessibles, mais en tout cas c'était pas les derniers schémas qui étaient disponibles, parce qu'ils continuent de travailler dessus. Ils ont commencé effectivement par ce fameux Liberator qui était un flingue tout simple en plastique qui pouvait tirer un ou deux coups. Là ils en sont à des fusils d'assaut et ils distribuent tous les codes etc. Et le reste, même si en France effectivement c'est interdit, c'est toujours la même chose. Ça reste le receiver qui reste cette base indispensable pour créer l'arme à feu. Le reste, je pense, bon, enfin, essayer enfant, je vais pas le faire, mais je pense que ça va pas être si difficile que ça de trouver
les pièces détachées.
Même en France, quand tu vois que, enfin, je sais pas si vous avez fait un patator quand vous étiez plus jeune.
Oui.
Globalement, une machine à balancer des patates avec de l'air comprimé. Mais c'est considéré comme une arme de catégorie 3 ou 4, je sais plus. Enfin, t'as le droit de le transporter que quand il est démonté. Enfin, c'est un truc assez réglementé parce que ça peut faire très très mal. bah quand t'es gamin, tu vois ça, tu peux acheter des tubes, tu le fais quoi, parce que oui, c'est bah rigolo. Oui, bien sûr. Bah un gamin qui est con, il va vouloir essayer aussi. Au début, il va se dire genre c'est juste pour shooter sur des cadettes. Puis il va avoir une frustration, un mal-être, une dépression, n'importe quoi. Et il va buter des gens ou se buter. Enfin, c'est complètement con.
Avec des patates.
Enfin, c'est comme les recettes d'explosifs. À l'époque, au début des années 2000, oui, je trouvais ça partout, sur tous les sites. Tu allais retrouver le fameux guide de l'anarchiste, etc. Aujourd'hui, c'est quand même bon, c'est plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, hein, là, malheureusement.
Ouais.
Mais
un petit peu de darknet et puis hop, c'est réglé.
Ouais, exactement. Il y a deux trois trucs qui sont très intéressants. Il y a un documentaire de 25 minutes qui s'appelait Click Print Gun, qui était spécialement sur Cody Wilson, justement. Oui, c'était en 2013, donc, au moment où il y a eu ce fameux débat et où il a été interdit de diffuser ses schémas. C'est un documentaire sur lui qui dure une demi-heure, je crois, et où il raconte ce qu'il fait, et surtout où tu le vois tester ses armes à feu. Il y a aussi la vidéo de Wired, où tu vois donc le mec tester son AR-15, et ça, c'est absolument hallucinant, parce que c'est une arme, quoi. Tu vois pas la différence, honnêtement, avec... tu peux pas... Quand tu vois le truc comme ça, tu peux pas dire une seconde que ça a été fait à la main. Alors que le mec avait juste l'imprimante, enfin la CNC, et il a lancé le fichier. En une heure, il avait son bloc. Alors après, il y a un peu de montage à faire, etc. Mais c'est...
Une heure,
je crois. Ou peut-être deux ou trois. Enfin, en tout cas, pas plus... Oui, si ça dure une journée, c'est vraiment le maximum. Parce que ça se travaille très facilement, en plus.
Ouais. Quand oui, c'est pas de l'acier.
Non, c'est pas de l'acier, etc. Mais ça reste assez solide pour pouvoir gérer. Donc c'est la partie qui prend la balle, qui avec leur sorte la refait monter dans le canon et ainsi de suite. Donc voilà. Et sinon évidemment le site internet, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est defensedistributed.com, qui est le site internet de Cody Wilson et de son assoce, où ils font justement, ils mettent en ligne tous les schémas et où on vous conseille évidemment pas de le faire.
Bien sûr,
oui, imprimer.
C'est intéressant d'un point de vue culturel d'aller voir un peu la façon dont ils défendent ça.
Rien que le nom du truc, le fait qu'ils appellent le premier defense, prototype quoi. Liberator.
Oui, bah oui.
Ça en dit long sur les intentions du
garçon. J'ai pas grand.
Mais l'impression 3D en plastique a aussi fait beaucoup d'avancées en 5 ans. Donc je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais je crois qu'il y a cela 3-4 ans, ils arrivaient à faire des fusils d'assaut avec du plastique. Enfin, tu pouvais peut-être tirer 100 balles seulement. Putain. Mais voilà, 100 balles, c'est
seulement.
Beaucoup. Voilà, ouais. C'est beaucoup quand t'es en face du truc. Ouais.
J'espère que ça va pas rebondir négativement sur l'impression 3D, parce que pour le coup, ça a permis des progrès dans la médecine, ouais. etc., qui sont incroyables.
Oui, mais en fait, ils sont trouvés par rapport à un véritable problème, et d'ailleurs, le Sénat américain, je crois, avait fait un des débats là-dessus, à savoir, est-ce qu'il faut interdire, en tout cas réglementer les imprimantes 3D, comme on réglemente les armes à feu.
La promesse de base est super intéressante.
Ah oui, mais
les détournements sont horribles.
Bah c'est comme toute technologie. De toute façon, ça dépend de ce que t'en fais.
Ouais,
Mais en l'occurrence, les imprimantes 3D, tu peux pas, ne serait-ce que parce qu'elles peuvent se répliquer elles-mêmes quand t'as une imprimante 3D.
Oui.
Tu peux fabriquer des pièces pour en créer une nouvelle. C'était pas quelque chose qui était gérable. Mais bon, de là à autoriser la distribution de schémas comme ça officiellement, c'était encore une autre étape. Et donc, le parti du 1er août, ce sera le cas.
Super, formidable.
Mais n'est-ce pas? Quelque chose un peu positif.
Putain, super cool, merci.
Ouais, bah,
un peu flippant, un peu badant, mais.
Ouais, moi j'aime bien un truc un peu flippant comme ça, de voir un peu. D'avoir une vision d'avenir de ce qui se prépare.
En plus, tu m'as donné un tremplin là pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun avec ce dont on va parler.
Alors avant ça, je vais juste vous rappeler le Print the Legend sur Netflix qui part du coup des imprimantes, enfin le début des impressions 3D. Super chouette parce que ça suit plusieurs boîtes, leur histoire, enfin il y a aussi un côté social assez chouette. Enfin, Socialo, Startup Nation, et parle notamment, il y a des petites parties sur ce cher Cody Wilson, et c'est super intéressant,
ouais.
C'est sympa à regarder, un peu flippant, et quand on voit ce que ça donne, putain, ça fait badé.
Et juste une petite stat aussi, donc j'ai cherché un peu là, en 2017, les États-Unis n'ont connu que 135 jours sans fusillade de masse.
Sans fusillade de masse. Hein. Ouais, c'est ça.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
C'est vrai que, ouais. En gros, un jour sur trois, t'avais une fusillade.
Au calme. On apprécie.
Bah okay. Et sur ce,
allons-y.
Voilà, j'ai quitté Porcherie, j'arrête de travailler. Je sors du système, je débase, enfin voilà, j'arrête tout.
Bravo, vraiment, Queen, plus des chèvres, là, t'as tout compris, c'est super.
Alors, pour les auditeurs qui, forcément, n'ont pas suivi le pré-épisode, c'est que Hisham nous a dit, putain, j'ai fait le meilleur jingle de ma vie.
Et c'est drôle.
Et je l'ai réécouté 20 fois aujourd'hui.
Mais c'est drôle.
Ah oui, je ne juge pas.
Tu peux le redire encore une fois.
C'est purement factuel.
J'adore.
Bravo, pardon, bravo. Merci. Vraiment très, très beau jingle. C'est merveilleux.
Je suis avec toi, c'est la meilleure auditrice qu'on ait.
Chroniqueuse. Et bah, du coup, après toi, Victoire.
Alors, moi, j'ai choisi de vous parler d'une passion.
que j'ai découverte il y a quelques années, quand je suis allée vivre dans une ferme communautaire en Andalousie. C'est la passion des chèvres. Donc, je me suis occupée d'un troupeau de 120 chèvres.
C'est énorme.
Ouais, pendant une année entière. Je ne savais pas que j'allais rester un an au début, mais au début, c'était un mois. Puis finalement, j'ai décidé de rester un an.
Ça doit être archi bruyant.
Alors,
120 chèvres, ça ne fait pas énormément de bruit,
ouais,
sans déconner.
Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, surtout que les chèvres sont des animaux bavards.
Oh, purée.
Et voilà. Beaucoup plus que des moutons, par exemple.
Ah ouais ?
Ou même que des vaches, oui.
Ou que des poissons.
C'est que des ratères.
Donc, très concrètement, qu'est-ce que je faisais ? Eh ben, mes responsabilités. Alors, il y a quelqu'un qui m'a montré comment m'en occuper. Il y avait toujours une responsable vraiment du troupeau, mais elle a de plus en plus, elle m'a de plus en plus laissé faire. Et donc, mes responsabilités, c'était de traire l'ensemble du troupeau à la main, puisqu'il n'y avait pas de machine.
Mais t'avais des ampoules, enfin, 120 chèvres.
Dès 6 heures du matin. Oui, alors, j'avais pas d'ampoule. En revanche, j'ai une très grande force dans les poignets.
Mais tu m'étonnes.
Voilà.
Avis aux agresseurs, ouais. Ça décompte pas, elle te chope le bras, elle te le très direct. Hein.
Ouais, et j'avais un peu des j'ai des mains assez musclées. Encore parce que ça demande beaucoup de muscles.
Ça peut intéresser ça.
Et une certaine technique.
Alors dans speed dating, c'est le genre de choses qu'il faut que tu dises quoi.
Bah justement, ça peut aussi faire peur. Donc je m'occupais de traire les chèvres. Alors c'était une opération assez complexe parce qu'il faut d'abord séparer les petits des chèvres car comme tous les mammifères, les chèvres n'ont du lait.
Oui,
que
quand elles ont
si
des petits.
Elles ont des petits. Donc, il faut sans arrêt les faire se reproduire. Et donc, le matin, quand tu arrives, elles sont ensommeillées. Et donc, la technique, c'était de ne pas allumer tout de suite la lumière.
Tu leur sautes dessus.
Afin qu'en leur sautant dessus, tu puisses prendre les petits, les mettre de côté, afin de pouvoir traire leur mère.
Oh là, attends, c'était quoi déjà ce truc ? Non, c'était pas la Saint-Barth, c'est la... Bref, pardon, je passe, mais... Ça me donne une...
Merci pour ton intervention.
Mais non, ça me fait penser à un principe de blitzkrieg où, genre, dès le matin, furtivement, tu...
Non, ça, il faut y aller, quoi. Et en plus, les petits apprennent très, très vite parce que c'est des animaux très malins. Donc, les petits apprenaient de plus en plus vite à se cacher et tout. Et toi-même, à 6 heures du matin, t'es pas hyper réveillé dans tes bottes et ta combinaison bleue. Donc, c'était, mais ça te réveille, quoi. Au bout de, t'as attrapé 37 chevreaux, tu vois, tu...
Ah la vache.
Ouais, tu les enfermes tous quelque part et pendant ce temps-là, tu commences à traire leur mère, donc avec un seau en aluminium. Mmh. Alors, il faut bloquer la patte de la chèvre, car elles ont tendance à s'enfuir. En plus, certaines ont leurs habitudes, certaines n'aiment pas être traites avant d'autres, certaines n'aiment pas être traites tout court.
C'est une blague.
C'est pire que de bosser dans une maison de retraite, quoi. Enfin, c'est...
J'ai jamais testé la maison de retraite.
On les traite pas dans les maisons de retraite, Camille.
Je confirme,
j'ai bossé là-dedans.
Mais non, mais j'allais
pas
dire...
pas du tout ce que j'ai fait.
J'allais dire, les personnes d'un certain âge ont leur habitude également.
Oui, voilà.
Voilà.
Là, d'accord.
Donc il fallait faire ça et puis après la traite il faut amener le lait à la chèvrerie et puis il faut préparer toute la chèvrerie pour qu'elle puisse partir et puis ensuite moi je les emmenais donc il y avait un moment à 9h le matin parce que ça dure quand même donc un certain temps hein, tout ça.
Ah bah oui, c'est bien de
croire. Et donc à 8h30 ou 9h j'ouvrais la barrière et là on partait dans les montagnes toute la journée avec les 120 chèvres et parfois leurs petits
et la petite balade.
Et là, grosse balade, parce qu'il fallait escalader les montagnes, il y avait tout un chemin et tout, donc on marchait pendant 6 heures ou quelque chose comme ça.
Et t'avais pas un âne pour...
Non, j'ai essayé, parce qu'il y avait des chevaux, et j'aime vraiment beaucoup monter à cheval, donc j'ai essayé de faire de la garde de chèvres à cheval, mais j'ai échoué. J'ai vraiment échoué, parce qu'en fait, les chèvres ont pas du tout peur des chevaux, et elles ont... Ouais, voilà, c'est les indifférents, et j'étais probablement pas assez bonne cavalière. J'avais une chienne, qui s'appelait Marisol, mais qui était censée... Oui, désolée.
Qui était censée faire des amendements qu'elle n'a pas fait.
Qui était censée aider à garder un troupeau, qui avait été entraînée pour garder un troupeau. Mais les chiens désapprennent très vite ce genre de choses. Et en plus, moi, je savais pas comment diriger un chien pour garder un troupeau. Donc, en fait, elle servait surtout à garder compagnie à mon sac à dos. histoire que les chèvres ne mangent pas mon sac à dos.
Ah, c'est
car on va y venir au régime alimentaire des chèvres.
Ah, attends, je me suis juste tu l'as précisé, mais c'était dans quelle région tu l'as fait ?
Andalousie. Alors, ouais, en Andalousie, ouais. J'ai vécu. Donc, c'est une communauté au nord. De Séville,
au sud de l'Espagne. Combien de personnes ?
C'était une communauté de 40 personnes qui existe depuis 30 ans et qui a compté jusqu'à 250 membres.
Putain, la vache,
sacré turnover.
Ouais, ouais. Mais les gens qui... Mais on reparlera plus tard de la communauté, mais Voilà, donc je précise quand même que c'était pas un cadre d'agriculture intensive ou un cadre même d'agriculture extensive, puisqu'en réalité le lait produit par ce troupeau de chèvres était destiné simplement à la consommation de la ferme et de la communauté, mmh. et que s'il avait fallu suivre des critères de productivité, de d'efficacité dans la production, eh ben on aurait certainement pas eu 120 chèvres, on n'aurait pas eu celle-là, on n'aurait pas dédié une personne à surveiller le troupeau toute la journée. Mmh. Enfin, c'était pas exactement le but. Il y avait aussi d'autres vertus à cette
espèce d'équilibre.
L'équilibre, l'intérêt que c'est de s'occuper d'animaux, l'intérêt que c'est de se promener toute la journée dans la nature, le fait que bref, j'ai une autre relation à ces animaux que simplement
c'est allier l'utile à l'agréable tout en respectant l'animal.
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, okay. Ouais. Mais donc ça faisait quand même beaucoup de chèvres.
Oui,
moral de l'histoire, oui.
Voilà. Alors les chèvres, il y en a aussi beaucoup dans le monde, hein, parce qu'on en compte 1 milliard.
Putain de Dieu.
C'est quand même moins que les poulets, on en compte 250 milliards, je crois. Mais c'est aussi moins que les vaches et les moutons. Et il faut savoir que ce sont les premiers animaux qui ont été domestiqués par les humains il y a seulement 10 000 ans.
Pas mal.
Mm-mm.
Mais parce qu'on sait pourquoi ?
Eh bien, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a une raison, mais
ça se mange, ça se traite, c'est petit.
En fait, c'est très rustique.
La peau est sympa.
Voilà, il c'est vraiment tout. Un animal tu qui peux sert tout. À tout.
Mais tu peux
faire.
Oui, c'est vrai que tu peux
tout
faire avec une
chèvre. Ouais, tu peux vraiment tout faire. Et il y a un autre intérêt à ces animaux, c'est qu'ils sont très malins. Les chèvres sont très très futées, contrairement aux moutons, qui donc la chèvre a la réputation injustifiée d'être un peu sotte. Alors que pas du tout.
Ah, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un animal du démon, quoi, avec leurs yeux qui partent en couille.
Moi, c'est, pour moi, c'est un peu comme le chat, mais en plus gros.
Leurs yeux ont des pupilles rectangulaires, notamment dans la lumière vive, oui. Cette forme d'yeux, aussi la position de leurs orbites sur leur crâne, leur permet de voir quasiment à 360 degrés.
Oui, elles ont pas un regard de braise quand même, quoi. Enfin, c'est un regard de chèvre, c'est pas.
Eh ben, si tu regardes une chèvre dans les yeux. Tu vas être intimidé parce qu'en fait elle voit jusqu'au fin fond de ton âme.
Oui, bah c'est ça le problème, parce que c'est l'animal du diable. C'est ça.
C'est bien, c'est ça que
l'animal du diable. Alors qu'un mouton, par exemple, tu peux pas vraiment le regarder dans les yeux. Et surtout, le mouton, tu vas pas du tout pouvoir le différencier de ses congénères. C'est pourquoi on ne nomme pas les moutons.
Alors qu'on nomme les chèvres.
Alors, moi, le troupeau.
Moi, j'ai nommé tous les moutons qu'on a égorgés pendant l'année.
Oh non.
C'est vrai? Non, mais c'est bien, ça leur donne une certaine.
Humanité. Oh, un steak de mouton.
Non, les chèvres. Alors après, je sais pas si c'est fréquent dans les élevages de chèvres, parce que je n'ai fréquenté qu'un seul élevage de chèvres, mais c'est vrai que le nôtre, donc je dis le nôtre, même si je n'ai pas remis les pieds là-bas depuis des années, mais en tout cas, chaque chèvre avait une carte d'identité avec un nom.
Non.
Oui, avec un thème par année. Donc par exemple les fleurs, les étoiles, etc. Et la première lettre de leur prénom correspondait à leur famille. Parce que donc ça c'est aussi très important à savoir sur les chèvres, c'est qu'elles fonctionnent par solidarité familiale. C'est-à-dire qu'il y a des clans en fait dans le troupeau qui fonctionnent comme de véritables mafias. C'est-à-dire qu'elles traînent tout ensemble. Donc évidemment les troupeaux sont entièrement féminins hein, puisque on n'a aucune utilité des mâles.
Oui, bah traire ça.
Ah bah oui, c'est vrai.
Bah en fait il n'y a pas d'élevage si tu tues pas les mâles.
Il n'y a aucun. Pas de reproduction si tu tues les mâles.
Alors, oui, mais combien faut-il de mâles pour entretenir
un suffit.
Voilà.
Astuce.
Ah bah c'est vrai. C'est
vrai. Et il devait sentir seul.
Alors,
il était quoi dans son
je vais parler des boucs tout à l'heure, okay. Mais en plus il ne faut pas que les boucs soient tirés du même troupeau évidemment, donc c'est d'autres boucs. Ce qui veut dire qu'en fait dans un troupeau chaque année si tu as 50 chevaux qui naissent sur un troupeau de 100,
tu gardes quoi.
Bah oui c'est ça, exactement. Tu ne gardes aucun de ces petits.
D'accord, okay.
Car ils ne servent à rien.
D'accord, okay.
Mais les gens ont assez peu conscience de ça quand tu leur parles d'élevage, ils croient qu'on garde tout le monde alors que non, en fait un élevage tu dois tuer les petits mâles, tu es obligé.
Mais c'est comme avec les poules quoi, on dit oui mais du coup faites quoi des coqs? Bah des putains de nuggets quoi.
Exactement, bah voilà c'est ça. Mais c'est pour tous les élevages la même chose. Pourquoi je vous racontais ça? Oui parce que, alors voilà, donc du coup les mâles n'avaient pas l'honneur d'être nommés. Sauf mon préféré qui s'appelait Chaussette, mais je vous raconterai son histoire plus tard, peut-être.
Oui, c'est bien celui-là.
Il y avait donc une année thématique des vêtements, si j'ai bien souvenir.
Alors non, lui, c'était vraiment complètement par hasard, mais je raconterai l'histoire de ce pauvre Chaussette plus tard.
D'accord.
Qui m'a servi à prendre un certain nombre de selfies adorables, et ensuite on l'a...
On m'a fait une veste en cuir qui m'a servi à prendre plein de selfies adorables.
C'est ça. Pauvre Chaussette. Alors, donc les chèvres ont chacune un nom. Et on leur donne un prénom qui correspond à la famille dont elles sont issues. Et donc ensuite, on s'aperçoit que dans leur comportement, elles restent avec leur tante, leur grand-tante, leur cousine, leur sœur, leur mère, etc. Et ça fonctionne par clan, c'est-à-dire que si tu attaques une chèvre d'un clan, une chèvre d'un clan qui va en attaquer une autre, toutes les autres vont se battre entre elles, etc. Donc il y a sans arrêt des guerres de pouvoir dans le troupeau.
C'est une cour de récré, quoi.
C'est pire que la cour de récré parce que c'est assez féroce.
Ouais.
Je dirais que c'est ambiance Game of Thrones, en fait, ah, tout oui. simplement. Oui, oui. Ah,
c'est taquin, les chèvres.
Alors, c'est agressif. Et assez féroces. Mm-hmm. Elles ont des cornes.
Non, on dirait pas comme ça. Oui, ça, oui.
Oui, oui, elles ont des cornes et elles s'attaquent de façon assez violente. Ouais. Par exemple, il y en avait.
Elles reculent avant d'attaquer.
En fait, elles reculent, elles baissent la tête.
Contact, ouais,
et elles foncent et elles se filent des gros coups de cornes. Celles qui dominent sont celles qui ont les plus grosses cornes. Ouais, et aussi celles qui ont des caractères. Parce que ça qui est très intéressant, c'est qu'elles ont toutes des caractères très différents. Donc, tu as des chèvres pacifiques. Et d'autres chèvres. Ouais, t'as des chèvres qui veulent la paix avec leur voisine et leur prochaine, et d'autres chèvres qui sont pusillanimes, enfin qui sont vraiment peureuses, et d'autres chèvres qui sont nées pour dominer, quoi. Born to be leaders, vraiment, c'est un des. Bon, par exemple, je me souviens avec émotion de Belladone, qui était la. Non pas la plus vieille, mais qui était une chèvre noire, avec des cornes enroulées, comme ça, extrêmement intelligente, et qui n'aurait laissé sa place de leader pour rien au monde. Ainsi, c'était à elle que je mettais la cloche principale. Chaque matin, et qui attendait avec une impatience qu'elle cachait, qu'on lui mette la cloche, et enfin elle prenait la tête du troupeau et elle fonçait et elle guidait tout le monde, tu vois.
Et Belle est-ce que tu as déjà essayé de pas lui donner, voir comment elle réagirait?
Alors non, parce que je voulais surtout pas qu'elle qu'elle se retourne contre moi.
Ah.
Ensuite,
oui.
Imagine.
C'est malin.
Imagine qu'elle ait décidé qu'elle allait emmener le troupeau à travers le trou du grillage que je n'avais pas vu. Eh ben, impossible de les faire repasser, parce que c'est aussi très intéressant pour ça. Elles sont capables de mensonges et de dissimulation. Ainsi, j'ai vu des chèvres passer de l'autre côté du grillage. Donc, de mes yeux vus, je les ai vues passer de l'autre côté du grillage.
Et quand tu leur demandais, non,
voilà,
non.
Frère,
exactement, exactement. Et ça donc, elles sont de l'autre côté et elles te regardent genre, je n'ai aucune idée de comment je me suis trouvée de l'autre côté. Je ne sais pas du tout. Donc, tu as beau les saisir par les cornes, tu rampes dans la terre et tout. Toi, tu essaies de passer par le grillage, tu fais le trou dans le grillage, tu les ramènes et tout. Elles te disent que vraiment, elles ne peuvent pas passer de l'autre côté. C'est matériellement impossible, tu vois. Elles ne peuvent pas. Alors que ce qu'on apprend assez vite quand on les garde, c'est que si elles peuvent passer la tête,
comme les chats,
du corps, en fait. Là, c'est voilà. Ah, donc il faut pas, il faut surtout pas faire ça. Donc mon job, ça consistait à marcher suffisamment en amont du troupeau pour vérifier qu'il y avait pas de trou dans le grillage, un trou qui était causé par les sangliers extrêmement abondants autour de la communauté et par les biches. Et donc je devais reboucher chaque matin. C'était Sisyphe, un peu mon travail, puisque chaque matin je devais porter des cailloux assez gros pour reboucher les trous du grillage. Cailloux qui, je le savais, le lendemain pendant la nuit allaient être bougés par les familles de sangliers. Famille de sangliers que je croisais assez régulièrement et ce qui me foutait une trouille bleue. Voilà, puisque...
c'est pas petit, oui. Un sanglier, quoi.
Non, c'est pas petit, et avec ces petits, vraiment, j'avais aucune envie de me trouver sur leur chemin, donc j'ai plusieurs fois tenté de me déguiser en buisson tandis qu'ils passaient à côté.
Tu nous as montré tout à l'heure, c'était très réussi d'ailleurs.
Merci. Merci, j'ai gardé quelques habitudes. Donc j'ai dû apprendre tous leurs noms. Et tous leurs prénoms.
Et je vais tous vous les citer.
Alors, il y a Bella Ciao, il y a
Amapola, Angel, Fluoricom. Il y avait une année, le thème c'était médicaments homéopathiques. Donc, voilà, Fluoricom.
Oh dear.
Elles avaient des noms en quatre langues, parce que c'était une communauté fréquentée par énormément de nationalités différentes. Et donc les guerres de clans, il y avait en fait c'était pas toujours le même clan qui dominait le troupeau. Et l'intérêt de ces guerres là, c'est que il y avait des familles entières qui arrivaient à sécuriser l'accès aux abreuvoirs et aux mangeoires. Donc il y avait celles qui se cachaient sous les abreuvoirs et les mangeoires, c'est les clans qui étaient dominés, en attendant que celles qui étaient dominantes puissent manger, finissent, etc. Et celles qui étaient dominantes poussaient la perversion jusqu'à crotter dans les mangeoires.
Non.
Afin que les dominés ne puissent pas y accéder.
Comme animal.
C'est assez féroce.
C'est le diable.
Voilà. D'autres enfants se faisaient une spécialité, tandis que je trayais celles du clan opposé, à foncer dans celles qu'on était en train de traire, hein, qui ne pouvaient plus bouger, tu vois.
Donc c'est de l'anti-jeu, là. Il y a pas, ils jouent pas le ballon, quoi.
Non, là, c'est vraiment donc là, moi, je m'autorisais à les frapper. Assez vigoureusement.
Okay. Toute tranquillité. T'avais pas peur que tout le clan vienne
m'attaquer? Non, parce que ouais, je faisais un peu attention. Il y a plusieurs fois où j'ai fait quand même très attention. Par exemple, quand je leur servais leur plat favori, qui est donc de la pâtée pour chèvre, qui est ce que peut-être que je réussis de mieux malgré.
Ah ouais.
Ouais. Enfin, j'étais à la base partie dans cette communauté pour apprendre à cuisiner, mais finalement j'ai fait beaucoup
de la recette de la pâtée.
C'est ça, la pâtée pour chèvre, qui est donc le son du blé mélangé à du petit lait. Donc les chèvres boivent leur propre lait. Enfin.
Bah pas les mamans aussi.
Bah si, elles boivent leur propre lait.
Pas les enfants.
Ouais. Et donc là c'est le délire, là c'était la curée vraiment. Si je portais donc je me souviens de porter le seau au-dessus de ma tête comme ça, pleine d'une pâtée pour chèvre que j'avais mélangée à main nue. Et quelqu'un fait un bruit avec un stylo.
Oui.
C'est Camille.
C'est confisqué.
On est à 15 minutes, je vais peut-être me grouiller. Donc, que savoir d'eau sur les chèvres? Donc, elles sont très malines. Elles peuvent regarder, si vous regardez quelque part, elles peuvent savoir où est-ce que vous regardez. Donc, elles comprennent un peu la psychologie humaine. Si vous les appelez par leur prénom, elles peuvent arriver. En fait, elles sont à peu près aussi intelligentes que des chiens.
T'as déjà vu des chèvres d'aveugles? Non,
je ne pense pas.
Parce que personne n'a pris la peine de les dresser pour ça.
Ouais, personne n'a... Parce que les chèvres font quand même aussi ce qu'elles veulent.
Oui,
mais en réalité, dans leur, enfin voilà, elles font. C'est pas un problème d'intelligence, parce que c'est plus un problème de docilité.
D'indépendance, ouais.
Ouais, en fait, elles font exactement ce qu'elles veulent. Je me souviens des périodes de canicule où il faisait 50 degrés, où il était impossible de les convaincre de manger quoi que ce soit et donc de bouger, d'aller chercher de la nourriture, etc. Elles décidaient d'aller ce qu'on appelait à la plage, parce qu'il y avait un endroit avec du sable. Et donc, je retrouve mes chères chèvres, les 120, complètement affalées comme ça à la plage, et je devais les lever avec mes bottes une par une pour leur dire d'aller faire leur taf, quoi. D'aller bosser, c'est-à-dire d'aller manger pour pouvoir produire du lait, pour que nous on puisse avoir à manger. Rien à faire. Franchement, elles faisaient oui, tu sais, elles allaient se promener un peu, pouf, elles se retombaient sur le sable.
Ah, oh, bah, je ne sais pas, c'est pas moi, je ne sais pas comment je suis tombée.
Mais elles faisaient exactement, tu fais très très bien. T'as été.
J'étais chèvre.
T'es
chèvrologue.
Ascendant chèvre.
Les chèvres ont des accents.
Non. Ça, je peux pas te croire.
Suivant le berger, bien sûr.
Ça dépend du troupeau où elles naissent et du pays où elles naissent. Mais comme les dauphins ou les oiseaux ou les baleines, elles ont. Alors après, elles ont moins de variété.
Elles ont des chants différents.
Mais elles ont l'accent allemand.
Elles ont moins de variété. Il y a une petite private joke là sur l'accent allemand. Mais elles ont moins de possibilités parce que ça dépend de disposition génétique. Mais en réalité, elles s'apprennent en fait les unes les autres une certaine tonalité. Donc moi, j'ai pu constater après en allant écouter d'autres troupeaux qu'ils bêlaient pas exactement de la même manière. Ouais.
J'aurais fait ce sujet, jamais vous en aurez cru, les gars.
et aussi, elles ont un cri spécifique pour appeler leurs petits. Donc, elles reconnaissent à l'odeur et au son. Et en fait, elles sont très, très expressives dans leur cri. Je me souviens être au bord des larmes, par exemple, quand j'ai vu une mère. Donc, je crois que c'était Amapola qui avait perdu ses jumelles pendant la nuit. Et en fait, on a dû les enlever pendant la nuit. Et le matin...
Elle les avait perdues. Oui, elles allaient finir en kebab, quoi.
Non, pas du tout. Non, parce que ça arrive, la plupart des naissances se passent bien. Enfin, j'ai vu des chèvres pondre des petits comme si elles s'étaient gratté le dos, tu vois. Ça leur posait pas du tout de problème en pleine nature. Mais j'ai aussi vu des mises à bas très difficiles. Et les jumelles d'Amapola sont mortes pendant la nuit. Et ensuite, j'ai vu Amapola les appeler pendant des jours et des jours, tous les matins, en fait.
Non,
et vraiment avec un cri de... Ouais.
Oh.
Alors, il faut savoir que c'est ce qui arrive à tous les animaux d'élevage, hein, aussi. Les vaches, c'est pareil. La plupart des gens, ça ne dérange pas de manger... vaches, etc. Mais les vaches aussi, en fait, souffrent énormément quand tu leur enlèves leur veau. C'est des souffrances.
Ah bah bien sûr, ouais.
Voilà.
Et elles comprennent pas.
Elles savent que le petit est plus là, quoi. Donc moi, j'ai vu des chèvres pousser des cris de détresse comme ça. Et les autres cris déchirants que leur ai vu pousser, c'est quand elles se retrouvent seules par hasard parce qu'elles se sont un peu trop éloignées pour aller cueillir des fleurs qui leur plaisaient, parce qu'elles ne broutent pas l'herbe. Hein. Ce sont pas des moutons. Elles choisissent les végétaux qu'elles veulent manger, comme les biches et comme les chevreuils. Donc elles vont pas du tout tondre votre gazon. Par contre, vous pouvez tout vous rosier, par exemple. Et donc certaines chèvres qui sont gourmets s'aventuraient un peu trop loin du troupeau, et j'ai vu des chèvres perdues. Donc là, je les ai vues genre les yeux révulsés pousser des cris que je ne saurais imiter ici. C'est vraiment des cris
de
désespoir. Vas-y, essaye. Non, ça fait plus genre. Comme ça, voilà.
Oh, vous avez raté une image magnifique.
Rip vos oreilles.
Oui, alors j'ai tordu ma mâchoire d'un côté. Parce que les chèvres bougent comme ça, en fait, elles ouvrent pas comme les chevaux en bas, elles ouvrent uniquement sur le côté, comme tous les ruminants. Et donc les cris de désespoir poussés par la chèvre qui croit qu'elle est abandonnée sont déchirants. C'est-à-dire que c'est vraiment l'essence de la solitude existentielle, quoi. Tu comprends que sans les autres, elle est complètement perdue. Et d'ailleurs, cette technique qu'ont utilisée les scientifiques qui ont voulu débarrasser les îles Galapagos, qui se trouvent au large de l'Équateur, dans l'océan Pacifique, pour débarrasser ces îles des 80 000 chèvres sauvages qui y habitaient. Mais c'est une histoire extrêmement triste que je vais peut-être pas avoir le temps de vous raconter. Mais ils ont utilisé cette capacité des chèvres à retrouver leurs semblables coûte que coûte. Car la chèvre ne supporte pas la solitude. À la limite, vous pouvez lui donner un cheval. Peut-être, mais certainement pas être toute seule, elle deviendrait folle de solitude. Quoi.
D'accord, donc si on achète des chèvres, c'est deux par deux.
Au moins, mais c'est vraiment des animaux qui se sentent bien en troupeau. et pas avec n'importe qui dans le troupeau, parce qu'encore une fois, elles aiment bien être avec leur famille, et puis elles aiment bien être avec des chèvres du même sexe qu'elles. Donc, même dans la nature, les troupeaux de chèvres sauvages traînent uniquement avec le même sexe, sauf en période de reproduction. Donc, dans la nature, on a des troupeaux de mâles et des troupeaux de femelles.
Et là, ils font un brevart, et bim bim, ça fait des enfants.
Bah, parfois, ils se retrouvent. Ouais, pendant genre 2 mois, période de reproduction et tout ça, ils se retrouvent et ils font des bébés et tout ça. Mais ça suit aussi tout un processus extrêmement codifié que nous essayons de reproduire dans la communauté. Ce qui veut dire que je traînais le plus souvent, c'est les plus jeunes chèvres par les cornes dans l'enclos des boucs. En me sentant un peu coupable, mais les jours d'après, elles étaient assez d'accord. Donc les chèvres, je vous l'ai dit, sont des animaux qui choisissent très précisément ce qu'elles mangent. Par exemple, si vous marchez sur leur nourriture, elles ne vont pas vouloir le manger.
Bah là, ça joue.
Moi, je peux comprendre. Moi, c'est pareil pour moi.
Oui, mais par exemple, un chien, on n'a rien à faire.
Mais un chien, il mange son
caca. Mais un chien, c'est un peu con, ce que j'allais dire.
Non, c'est intelligent, mais ça mange.
Oui, mais enfin, oui, non, mais je veux dire, c'est une bonne patte.
Une bonne patte.
Vous pouvez développer ou
non, ben on va laisser Victor continuer.
Que vous dire d'autre? Que la naissance des chevreaux est quelque chose de très émouvant, puisque contrairement à nous, au bout de 3 secondes,
ils ne ressemblent plus à une aubergine.
ils naissent et ensuite ils posent leurs mini sabots encore un peu mous par terre comme ça. Et ensuite ils tremblotent sur leurs petites pattes.
Et ils marchent direct après.
Et en 10 minutes ils sont debout quoi. Et leur mère les a léchés de la tête aux pieds, à manger le placenta.
C'est bon pour la santé.
Il paraît.
Si Kim Kardashian l'a fait.
Ouais, ça se fait
aussi. Ah, c'est vrai, je savais pas qu'elle l'avait fait.
C'est
tout un débat chez les humaines. Est-ce que tu dois manger ton placenta ou pas?
Ça se fait encore dans certaines régions du Mexique, du Pérou, etc.
Ah, bah, même certaines régions à côté de Bourges aussi.
Oui. C'est recommandé apparemment de manger son placenta.
Bah, ouais, c'est plein d'éléments nutritifs. Donc, les chèvres font ça. Et ensuite, les petits chevreaux suivent leur mère. Alors, parfois, il faut les aider à téter parce que les pis sont tellement gonflés. Qu'il faut aider les chevreaux, donc leur mettre le pied dans la bouche et tout pour qu'ils y arrivent. Mais il y en a d'autres qui arrivent très bien. C'était le cas de mon bien-aimé Chaussette, que sa mère a rejeté. Qui, du coup, était tellement affamé de lait et d'affection qu'il me servait pour déboucher les pieds de toutes les chèvres dont les pieds étaient trop difficiles.
Pourquoi vous l'appelez Chaussette et pas Décapsuleur, quoi?
Bah, parce que c'était plus joli et aussi parce que Chaussette, paix à son âme, avait 3 bouts de pattes blanches. Comme des chaussettes.
Trop mignon.
Ouais, il était vraiment hyper cool, mais aucune chèvre ne voulait de lui. Donc il fallait tenir la chèvre dont on voulait déboucher la bille pour que sa chaussette puisse se nourrir. Mais on a dû se débarrasser de lui aussi.
Next.
J'aimerais vous dire que les chèvres nagent extrêmement bien.
Ah ouais?
Non.
Mais c'est vraiment l'animal du démon, quoi. Ça monte dans les arbres, ça monte.
Ça monte dans les arbres. Ouais.
Ce que j'allais dire dans les organismes.
Pas mal de trucs. C'est pourquoi les marins les emmenaient aussi à bord des bateaux.
Sérieux?
Bah, c'est moins dangereux en cas de tempête d'avoir une chèvre qui tombe dessus qu'une vache, par exemple.
Ou qu'un éléphant.
Ouais, sauf que l'éléphant, ouais, plus, tu peux à peu près rien en faire. Donc,
j'allais dire, tu traites pas un éléphant.
Ah, ça.
Est-ce que t'as essayé?
Et que je rêve très souvent d'elle.
C'est vrai?
Ouais, ça fait partie des expériences les plus du troupeau et du bonheur que c'était d'emmener des animaux et de les regarder. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder et à les observer et à rire, avoir beaucoup de fou rire toute seule. Je me prenais un peu pour Heidi en brune dans ma montagne. Ça a été vraiment un moment de résurrection très beau pour moi de m'occuper de ces chèvres-là. Donc je serai éternellement reconnaissante à la communauté.
Tu regrettes
qui
pas
m'a...
du tout d'avoir d'être
de non non par là, quoi. pas du tout et c'est vraiment une des plus heureuses et pleines expériences de ma vie et j'en tirais plein de voilà. Je repense souvent à elle, par exemple quand je me préoccupe un peu trop de mon apparence, je pense à aux chèvres qui n'en ont absolument rien à faire d'avoir les cornes tordues, les jambes cagneuses ou les pies énormes.
Elles sont heureuses.
Oui, elles vivent leur vie de chèvre et elles sont très bien comme ça. Voilà.
Et par curiosité, qu'est-ce qui a fait que tu es allée dans cette communauté et qu'est-ce qui a fait que tu en es repartie?
Alors, j'y suis allée parce que j'avais j'avais une crise de sens. Donc je trouvais que ce que je faisais n'avait pas grand sens et surtout j'étais très frustrée de ne rien faire de mes mains. Je faisais que toucher des ordinateurs et des téléphones toute la journée. J'étais reporter au journal de 20h et 13h à France 2 à l'époque et j'étais pas très heureuse, pas du tout même. Et j'avais vraiment un grand manque de travail concret. Aussi j'avais envie de travailler dans un endroit où les gens seraient bienveillants et ils seraient pas dans l'extrême compétition tout le temps.
Je comprends.
Voilà. Oui, c'est vrai que dans une communauté, il y a moins de Startup Nation.
Bah, ouais, c'est vraiment des gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas vivre dans une communauté si les gens font pas un travail très important sur eux-mêmes. Et c'est simple, c'est vraiment un endroit où, ou si les gens ne soignent pas leur relation, la communauté explose. Donc ça veut dire que tout le monde se traite correctement et avec beaucoup de voilà d'humanité et de profondeur. Et c'est ça que je cherchais. J'étais aussi intriguée par le fonctionnement communautaire. Parce que je suis partie en faisant du woofing pendant un mois, et donc j'aurais pu aller vivre dans une famille, mais vraiment ça m'intrigue depuis longtemps la vie en communauté. Voilà.
Tu les as trouvés comment ?
Sur le site du woofing. Je savais que c'était le mois de mars. Je savais pas parler espagnol. Il faisait très moche à Paris, et je me suis dit que ce serait sympa d'aller en Espagne. Donc j'ai cherché ce qu'il y avait comme woofing en Espagne, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs communautés. Donc j'ai regardé les communautés, et j'ai vu que celle-là, ils cherchaient quelqu'un pour cuisiner. Et j'aime beaucoup cuisiner, je voulais apprendre, alors je me suis dit que j'allais aller là-bas, et en fait quand je les ai appelés, ils m'ont répondu tout de suite, enfin tout était très très fluide, et ce que je prends comme un bon signe dans la vie en général, quand tout se fait facilement, c'est qu'il faut y aller quoi, donc j'y suis allée au début pour un mois, et en fait je crois que je suis arrivée là-bas, et le premier jour je me suis dit que, enfin ça y est quoi, je pouvais enfin respirer, ça allait bien, les gens étaient gentils, c'est très très beau cet endroit.
Les gens étaient sains.
Ouais, les gens étaient beaux aussi.
À prendre une décision.
Non mais oui, les gens étaient beaux au sens de
une belle personne.
Ils étaient en bonne santé, même extérieurement, je trouve ça a fini par se voir. En fait, des gens qui ont pris soin d'eux, qui sont très apaisés, qui sont réfléchis, qui
avaient l'air sereins, j'imagine.
Voilà, ils avaient l'air sereins et tout. Donc moi je sortais d'un endroit où
tout le contraire de Paris,
qualité, mais c'est pas pareil quoi, c'est pas, et moi j'avais vachement cette énergie là, donc ça m'a fait beaucoup de bien d'aller là-bas. Et puis après tout ce que j'y ai fait, j'étais émerveillée quoi. C'est exactement ça dont j'avais besoin. J'allais me promener toute la journée dans les montagnes. Je faisais quelque chose de concret. Je voyais le résultat du entre le début et la fin de ma journée. Enfin, j'ai vraiment adoré. Et je suis partie parce que au bout d'un an, finalement, ça ne me convenait plus. Et puis mon père était très malade. Alors j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie.
D'accord.
Voilà. Donc je suis rentrée.
Ok.
Voilà.
Bah ouais, sacrée expérience. Bah écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous.
Eh bien, merci de m'avoir écouté.
J'ai une mini question.
Oui.
Vas-y.
Pourquoi Chaussette est mort ?
Alors
tu te poses vraiment la question. Je pense qu'il a pas trébuché sur un caillou, hein, Chaussette.
Non, mais pourquoi ?
Parce que vraiment, on peut pas garder les petits.
Ouais, il fallait faire du kebab.
Bah non, c'est pas ça, c'est que qu'est-ce que t'en fais une fois qu'ils grandissent ?
Du kebab. Alors,
c'était un mâle.
Pas familier avec la gastronomie andalouse. Hein.
C'était un mâle.
Bah oui, Chaussette.
On dit une chaussette.
Okay. Non, Chaussette était un mâle et Chaussette ne pouvait pas vivre comme tous les autres. Surtout qu'il faut les tuer avant la puberté, sinon la viande est vraiment pas bonne. Et en plus, ils commencent à essayer de se reproduire avec leur sœur, donc c'est pas une bonne idée. Donc au bout de 4 mois, il faut tuer les chevreaux. C'est des chevreaux que j'avais vu naître. Hein, donc,
c'est très drôle parce que tu dis ça avec beaucoup
ça
de détachement.
Dû être dur pour toi.
Mais ouais, je pense que sur le coup,
ouais, sans déconner, ça a dû être dur.
Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, ça, c'était aussi une expérience intéressante. Du coup, je suis désolée, je gratte encore
des minutes.
Vas-y, gratte.
Ça t'a fait réfléchir sur la castration.
Alors, on les castrait pas.
Oui, vu que vous les tuiez direct.
Mais en revanche, ça m'a vraiment fait réfléchir à l'importance de la viande et à ce que ça voulait dire en fait de consommer de la viande. Donc
mais moi, la viande n'est pas que des produits issus de la viande aussi, parce que là pour avoir du lait pour avoir
oui,
un truc viable,
vrai.
Obligé de buter les mâles quoi.
Bah oui, c'est ça, c'est vrai. Donc moi je mange pas enfin ce que je dis souvent en forme de provocation, c'est que je mange pas d'animaux que j'ai pas tués moi-même.
Ce que tu m'as dit, du coup je t'ai dit qu'on ferait en sorte que la salle de bain soit
voilà.
Prête pour ça.
Mais c'est vrai que en fait il faut se rendre compte que la vie animale ça a une grande valeur. Je pense vraiment que nous on en fait n'importe quoi.
Ah oui,
la façon dont on traite les animaux et tout. Enfin,
clairement
c'est...
quand on fait un double cheese ou un 280 de McDo.
Ouais. C'est enfin voilà donc je juge pas ça mais je pense que ça
tu fais bien
le problème c'est pas de manger de la viande ou de d'utiliser des produits issus des animaux, c'est d'en faire de la merde en fait.
Oui, enfin c'est à dire que je pense que donc j'en consomme à titre très très exceptionnel et quelque part je me dis que je sais ce que ça vaut. Donc si mon voisin à la campagne fait un méchoui et tout, bah genre je vais manger un bout d'agneau quoi pour aussi parce que je sais pas, je trouve qu'il faut pas gaspiller la viande, ouais, tu vois, c'est pas une carotte quoi, ça a été un être vivant à un moment.
C'est pas égal.
Et donc le moment où il a fallu tuer les 50 chevreaux que donc j'avais vu naître, que je voyais, même si j'essayais de pas trop les personnaliser, on leur donne pas de nom et tout, mais quand même il a fallu les tuer. Après il a fallu les dépecer, il faut les vider. Il faut découper la viande, après il faut cuisiner la viande.
Tout ça, c'est vous qui le faisiez ?
Ouais, je l'ai fait.
Oh, c'est incroyable.
Avec d'autres gens, avec d'autres volontaires. Mais c'était un moment assez difficile pour moi. Parce qu'en fait, ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie de tuer des animaux. Et ça te prend aussi beaucoup d'énergie de les tuer. Et en même temps, il y a aussi une forme de gratitude parce que quand tu ouvres un animal, bon, en l'occurrence des chevreaux, tu trouves que vraiment c'est très très bien foutu la vie. Non mais c'est
bien foutu là-dedans, dis donc.
Non mais
c'est... Il avait bien rangé le bordel.
Non mais c'est vrai,
tout,
mais c'est vrai. Tu as l'ensemble des membranes et des tendons et de comment ça fonctionne et de comment tout ça est articulé, c'est quelque chose de complètement fascinant à voir. Et après, il a fallu les cuisiner et j'étais aussi chargée de la cuisine, donc voilà. Et donc tout ça, c'est de la nourriture qu'il s'agit de respecter et d'honorer. Et c'est pas n'importe quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que considérer les animaux comme un stock ou comme une ressource dont on peut disposer à sa guise, ça me choque beaucoup.
Ouais, je comprends tout à fait. Ouais.
Voilà.
C'est acquis. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que
carrément.
Ça ouvrira des vocations, des portes à certaines personnes qui
veulent. Mais moi, j'encourage les gens à faire du woofing. Hein. C'est vraiment une super expérience.
Alors, petite explication de woofing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est.
Je crois que c'est World Organic. For farming ou un truc du bon. En gros, c'est une organisation mondiale pour l'agriculture biologique, pour le volontariat dans l'agriculture biologique. Donc, on peut aller faire du woofing partout dans le monde. Il y a des fermes qui cherchent des volontaires pendant une certaine durée et voilà, et qui vous.
En général, t'es logé,
nourri, blanchi en échange d'un certain nombre d'heures de travail. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait pour aller vivre là-bas.
Ok, d'accord. Cool, bah voilà, on vous encourage à le faire et puis à nous relater vos expériences.
Oui. C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout ?
Mais dis-tu nos conneries ?
Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.